Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 juin 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 1er juillet, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Victoria. Bonsoir Marc, parce que bonsoir Marquis.
Bonsoir Monsieur de Bekech.
Bonsoir parce qu'on a reçu un dessin très drôle mais qui n'est vraiment pas racontable à propos de l'électricité.
Ils n'ont même pas voulu me le montrer.
Merci Monsieur le, merci Monsieur notre correspondant. Tant pis pour ceux qui n'ont pas la radio en couleur, vous pouvez pas voir le. On a failli arriver en retard. Parce que pour
il
une
a
fois,
même failli pas arriver du tout.
Ah, pour une fois, j'étais obligé de prendre une automobile à pétrole pour venir. Et alors, je dois dire que vraiment, cette circulation parisienne, on a l'impression que le plan de la circulation à Paris a été inventé par une folle tordue.
Elle est améliorée de jour en jour.
C'est hallucinant. Hallucinant. C'est curieux d'ailleurs, cette manie qu'ils ont de vouloir toujours boucher les voies naturelles d'évacuation. On ne peut plus circuler du tout. C'est... Hein? Oui, en plus, je restais 10 minutes en arrêt devant une affiche. C'était l'affiche de Miguet.
Ah!
Alors, je vous assure.
C'est la punition des complexes.
Ah, bah non, bah là, c'est tout mal. Le maire de Paris, faudrait peut-être penser à faire nettoyer les murs. Parce qu'en plus, j'ai toujours peur de circuler devant une affiche de Miguet. Parce que si au moment où vous passez le nez s'allonge, il vous écratigue la carrosserie. Hein.
Oui.
Non, non.
Moi, j'ai failli être en retard parce que le taxi n'avait pas de monnaie. Ils n'ont jamais de monnaie. 20 euros, ils n'ont pas de monnaie.
On ne dit pas de mal des taxis à Radio Courtoisie parce que c'est le gros de notre auditeur.
Oui, bien sûr, il écoutait Nostalgie, donc je peux me permettre.
Ah bon, ça va, celui-là. un auditeur qui me dit, qui nous écrit, il nous dit, d'ailleurs, c'est celui qui nous a envoyé le dessin, je dis tout. Les futures lois contre ce qu'on appelle publiquement l'homophobie risquent de limiter la liberté d'expression. Non seulement de Roger Hollande ou de Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais aussi de plusieurs grandes catégories de la population française, notamment les automobilistes parisiens, et surtout les spectateurs de sport, singulièrement vos chers footballeurs. Leur vocabulaire va au moins être divisé par deux. Il va leur falloir dégager des trésors d'intelligence pour trouver des substituts à arbitre ou bien au célèbre Oïs, quand le gardien de but adverse dégage le ballon de ses 6 mètres. Ayant donc une pensée émue pour nos concitoyens à Crampon, compatissons au malheur qui s'abat sur les têtes casquettées qui attendent le samedi soir pour s'écharper, le tout aux couleurs du Paris Saint-Germain. C'est bien, non?
Je peux mettre mon grain de sel à propos.
Oui, faites donc.
Vous savez que j'étais à Berlin et à un moment, j'ai voulu aller déjeuner, j'ai pas pu, j'ai mis 2 heures pour traverser les Champs-Élysées de Berlin, parce qu'il y avait la Gay Pride à Berlin, ce que j'ignorais, en même temps qu'à Paris. Et le maire de Berlin en a profité pour faire lui aussi son coming out. Alors je m'aperçois que le maire de Paris en est, le maire de Berlin en est, et d'un seul coup, je pense que Chirac est resté 18 ans à la mairie de Paris, ça m'inquiète.
Oui. C'est pas le seul, hein.
Non, mais enfin, 18 ans, c'est beaucoup.
Il y a beaucoup de maires qui sont détentes.
Oui.
Mais c'est vrai.
Oui.
Vous avez remarqué?
Oui, je sais pas. Ça, oui. À quoi ça tient?
Je sais pas, non. Bah, c'est une question de... Parce que généralement, elles ont un frère ou une sœur qui fait des enfants, c'est tout. Pas les maires. Bien, qu'est-ce qu'on disait? Il faut en profiter parce que dans quelques temps, on n'aura plus le droit.
Ah, j'ai une idée d'ailleurs, mais il faudra que je vous en parle. J'ai envie un jour de faire un grand papier très très homophobe pour être traîné devant la 17e chambre correctionnelle. Vous voyez la suite?
Oui, je vois bien.
Bon, et ben,
c'est très amusant.
On va le faire.
C'est une très très bonne idée.
Et bien, on va le faire.
C'est très, très... Mais remarquez, blague à part, il y a un dénommé... comment s'appelle-t-il? Oh, j'ai oublié son nom. Enfin... Il a été traîné devant les tribunaux pour antisémitisme, et quand on voit son nom, on se dit que c'est absolument impossible.
Voilà, bah, tout est dit.
Alors, c'est avec stupéfaction que j'ai appris... Ah bon, non,
oh
alors
non,
écoutez, là, vous me lâchez un peu, si j'ose dire, chers amis, avec Lugan. Je vous ai dit, je vous ai dit ma position, Lugan vous a dit la sienne, c'est la même en plus, donc je n'ai pas de problème. Si vous avez des réclamations à faire, vous écrivez directement à Monsieur Ferré, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris, et vous lui dites... Nous voulons une tranche horaire pour Bernard Lugan. Point à la ligne. Voilà. J'en ai assez dit. Quant aux gens qui m'envoient des lettres d'insultes, s'ils savaient l'usage que j'en fais, ils économiseraient leur papier. L'histoire d'au village du Marquis est très drôle. La journaliste n'a plus qu'à voir des vapeurs à la terrasse de ce café bien connu, nous dit cet auditeur. Votre libre journal radiophonique avait des airs de cours de récréation. Voilà. Hein.
Moi aussi, j'ai
est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal?
Non, moi je suis très content. Moi aussi j'ai reçu un courrier de Patrick Goffman, qui m'a enjoint, puisque paraît-il je le remplace, alors qu'il est irremplaçable, de parler du Libre Journal durant l'émission, parce que sinon on va croire que Serge Begache ne veut pas vendre son journal. Donc je rappelle que le Libre Journal c'est 4 places françaises, 75 010 Paris, que l'abonnement c'est 110 € par an, et voilà, après il me demande de dire le Franck Courtoisie, Info, Wanadou, machin, ça je sais pas faire.
Mais, c'est brillant votre intervention, c'était vraiment dommage.
Non, mais je voudrais qu'on le regrette. Non, mais c'est surtout l'abonnement, 110 € par an, 4 places françaises. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire à propos
de... Je recommencerai tout à l'heure.
Je sais plus, j'avais autre chose à dire, mais ça me reviendra.
Voilà, vous avez commencé un sujet là,
j'avais commencé
délicat,
ça.
Donc vous allez avoir des questions. Est-ce que ma mère en est une?
Non.
Est-ce que ma mère en est une?
Non, j'en sais rien d'ailleurs, parce que moi j'ai
jamais
tenu
la chandelle.
La chandelle, donc bah, je ne suis pas directement concerné par ces affaires-là.
Ou alors il a fait ça pour se dédouaner, mais bon...
Et puis, vous n'avez pas compris à propos de M. Delannoy, il n'a jamais dit qu'il voulait améliorer la circulation. Il a seulement dit qu'il voulait faire disparaître la voiture particulière de Paris.
Non, mais j'ai bien compris ça, mais je disais...
On savait depuis longtemps qu'il est pour les transports en commun.
Avez-vous lu la...
pas mal, celle-là.
Bon, merci.
Oui, eh bien, allez-y.
Avez-vous lu la tribune libre de Jean Raspail publiée dans le Figaro?
La tribune
de Jean Raspail publiée dans le
oui,
Figaro.
Oui, bien sûr, je l'ai lu. Parce que j'étais... Attendez, après je répondrai à ça, parce que j'étais en train de lire. Non, mais attendez, on vit dans un monde de cinglés maintenant, ça y est, il n'y a plus que ça. Un auditeur m'envoie un document qui s'appelle Homobus.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Avec le slogan, avec le sigle de la RATP, le M de métro, Homobus. Alors, il y a une photographie d'autobus avec des petits ballons roses, c'est joli comme tout. Gays et lesbiennes de la RATP.
Mais attendez, ils n'ont pas besoin, vous prenez alors, la petite ceinture, attendez. Vous faites s'automiser sans bouger, tellement il y a de monde. Alors bon.
Est-ce que. C'est quand même de l'exclusion, parce qu'il faudrait. Moi, imaginez par exemple un noir, un africain, qui est employé à la RATP et qui est homo. Il faut faire un club des Africains homo de la RATP. s'il est tout petit, des personnes non grandissantes.
Mmh. Ah oui,
ah voilà, oui, il faut hein, faire.
Il faut.
Il y a déjà le collectif lesbien handicapé.
Ça, c'est de l'exclusion.
Ça existe.
Qui est handicapé au PTT? Je vais remarquer. Alors, rejoignez l'association. Alors, si vous voulez adhérer à Homobus, je sais pas, on fait peut-être des prix d'ailleurs, dans le métro, non?
Non,
vous avez un ticket.
Oui, non, moi, j'ai...
avec le conducteur. Montant de cotisation annuelle, 31 euros. À la réception de votre bulletin d'adhésion et de votre règlement, vous recevrez votre carte personnelle d'adhérent. Conservez-la précieusement, elle sera le justificatif de votre adhésion. Non, mais attendez.
C'est n'importe quoi.
Là, ça va, la tête?
C'est des pompes à fric, hein. Enfin,
vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez le ou la seul agent homo de la RATP? Non, mais moi, je me suis pas posé la question parce que je suis pas agent de la RATP, mais enfin. Lorsqu'on arrive dans une entreprise qui compte plus de 40 000 salariés, on est parfois confronté à des hésitations quant à l'évocation de la vie gay. Ce n'est pas toujours facile. Enfin, écoutez, imaginez le type qui arrive à la RATP, qui rentre et qui dit « Je vais faire une évocation de ma vie hétéro ». Les gens diraient « Mais attends, t'es exhibitionniste, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces
histoires ?» Il n'y a pas de club.
Il n'y a pas de club. Ça serait d'ailleurs... Oui. Il faudrait faire un club des hétéros de la RATP. Toro Toto. Ce n'est pas toujours facile ni évident de se positionner. L'on craint parfois la réaction de l'autre face à l'inconnu. L'autre, c'est
celui qui veut pas.
C'est l'autre. Certains le vivent bien, d'autres un peu moins. Les uns choisissent de ne pas le cacher, sans pour autant s'afficher. Bref, autant de situations que chacun peut. Oh, chacun, non, je sais pas qui a écrit ça, mais c'est pas Walter Proust.
Vous voulez que je vous dise comment, oui? Vous voulez que je vous dise comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner sur les, non, mais ça va fonctionner sur les heures syndicales.
Ça va
se réunir dans le cadre du comité d'entreprise et tout le bazar.
Bref, autant de situations que chacun peut rencontrer, à moins de choisir le mutisme le plus absolu sur le sujet. Ben voilà, c'est très bien. C'est devant la nécessité de retrouver d'autres agents partageant la sensibilité gay qu'est née l'association Homobus. Ah, la tête de Rénal Sécher qui vient d'entrer, il s'attendait pas du tout, il croyait qu'il était dans l'émission sur Radio Courtoisie. Non, c'est bien Radio Courtoisie, c'est pas fréquenté. Espace communautaire des gays et lesbiennes de la RATP, l'association se veut être un lieu convivial, ouvert à tous, propice à encourager les échanges.
Hein? À tous.
À tous et à toutes.
Ouais,
il n'y a pas à toutes.
Pas aux
étudiants.
Bah, c'est-à-dire, non, c'est à tous et à tous, en fait.
À touche.
Okay. Et propice à encourager les échanges et la création de nouveaux contacts. Je suis d'accord, on vous a compris, les gars. Enfin,
je suis sorti pompé.
Moi, je voudrais bien savoir qui a payé l'édition de ce document
qui
ressemble fort au document. Oui, je crois.
Bien sûr, c'est nous.
Voilà. Ben, donc, je ne suis pas homo, je ne travaille pas à la RATP. Puis-je quand même adhérer? Non, mais je vous assure, c'est les questions. Qui peut adhérer? Pour adhérer et devenir membre de l'association, je ne suis pas homo, je ne travaille pas à la RATP. Puis-je quand même adhérer?
Du moment que vous donnez des sous, vous êtes bien accueilli.
Mais vous devez être parrainé par un agent de la RATP adhérent. Par un agent, hein, pas une agente. Je souhaite d'assez discret de ne pas m'afficher. Ben, on va rester chez vous.
Moi, ça commence bien.
L'association est-elle liée à un syndicat ou à un parti politique? Bien sûr que non, tu vois.
Si, à mon avis, c'est le Front National,
je n'ai rien. Nous sommes une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901 et strictement indépendante de tout autre organisme.
Super.
Institution, entreprise, syndicat, parti politique, etc. Reconnue par la RATP, elle refuse toute étiquette et élabore son plan d'action en toute indépendance. Alors, pour les personnes intéressées, je ne donne pas l'adresse de Homobus, vous chercherez un petit peu, vous trouverez si vous avez un peu de flair. qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais c'est quand même incroyable.
C'est inouï, quand même.
Après, il va y avoir homothétiques, c'est les PTT, les homothétiques, je suppose.
Ça existe déjà.
Ça existe
déjà.
Le
collectif machin PTT. Ça.
Voilà. C'est quand même très très sympathique tout ça.
Ça fait des chars pour la Gay Pride.
Très 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 sympathique. Alors la Gay Pride, 700 000 personnes nous disaient les gazettes. Oui. Ils ont commencé par 300 000. Ils ont dû se faire engueuler. Alors par les organisateurs, je vous expliquerai pourquoi après. Alors, ils ont dit 500 000. C'était pas encore ça, on a dit 700 000. 700 000 à la Gay Pride, mais ils nous prennent pour des pélicans. Il y avait 1 million de personnes officiellement à la plus grande manifestation de Paris est connue au XXe siècle, et non pas depuis la libération, comme on l'a dit, c'était à l'école libre. Et 700 000, mais ils se foutent du monde. Alors pourquoi ils se foutent du monde? Tout simplement parce que il faut savoir une chose, c'est que la Gay Pride, c'est un truc qui est organisé, qui est financé exclusivement par le lobby des affairistes
du Marais.
Du Marais. Ouais. Les boîtes de nuit, les boîtes de...
Le pharmacien, les teinturiers,
les pharmaciens,
tout
le Marais. Les boîtes de préservatifs, les boîtes de... tout ce que vous voulez.
Boîtes de temps.
Tout ça, ils payent. Et alors, ils ont le droit d'avoir des chars. Eux seuls ont le droit d'avoir des chars, personne d'autre. Et ils les font tourner 10 fois, 15 fois. Je sais, puisque j'ai rencontré l'autre jour un conducteur de chars. Pas de chars blindés, mais un type qui dit, moi, le jour de la Guillet Pride, je conduis les chars parce que c'est bien payé. Voilà. Et il dit, on nous fait passer. Et quand ils nous disent 700, parce que lui, il est, comme disent, comment ils disent les Américains, straight. Oui. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas adhérer au Mobus.
Très bien.
Bien que conducteur de char.
Il est assis, hein, quand il
conduit. Et alors, il nous dit, ils nous font parler, passer plusieurs fois. Oui. On fait un tour, puis on refait un. Enfin bon, voilà.
En revanche, je peux vous dire qu'à Berlin, on a minoré les chiffres. On disait l'année dernière 400 000 et cette année 200 000. Vous voyez, ils sont peut-être plus honnêtes que nous.
Non, mais c'est que les Allemands, il y en a de moins en moins.
Mais ils ont un défaut de plus, ils boivent beaucoup plus qu'à Paris. Alors, ils sont bourrés au bout d'une heure.
Comment un défaut ? C'est un défaut.
Non, mais non.
Vous ne m'avez pas donné l'impression de considérer ça comme un défaut. Je voudrais dire aussi aux sympathiques sociétés de mutuelles d'assurance qui m'envoient toutes les semaines une proposition pour une assurance obsèque ou pour une convention obsèque à la radio, que c'est à mon goût un peu insistant et un peu tôt. Voilà. Bien. Alors, ces choses, je l'ai tant dit. Il faudrait quand même parler un mot pour parler de l'euthanasie. Puisque aujourd'hui l'Assemblée nationale a évoqué ces questions-là, et on a vu arriver un type qui nous a... Alors, j'ai écouté son discours, enfin son intervention à la radio. Il a dit en une phrase, sereinement, tranquillement, paisiblement, calmement, pour expliquer comment on allait sereinement traiter les malades et paisiblement les aider à accéder tranquillement. Enfin, c'est incroyable. On a l'impression qu'on va leur rendre service. On va les zigouiller, on va leur rendre service. Alors, bien entendu, l'argument, c'est qu'il n'est absolument pas question d'autoriser l'assassinat des malades et des vieillards. Pas du tout, du tout. C'est, il s'agit d'éviter les euthanasies clandestines. Je vous rappelle que c'est exactement le discours que la promotrice du génocide français, Madame Simone Veil, a tenu quand elle a fait sa loi, en disant c'est une loi de lutte contre l'avortement. Hein, c'est, il faut lutter contre l'avortement, les avortements clandestins qui font deux morts, le bébé et la mère. Et donc pour ça, on va installer toute une série de barrières qui vont conduire les femmes à choisir autre chose que l'avortement. Et si elles sont quand même véritablement décidées à y aller, eh bien, ça se passera dans les meilleures conditions du monde, il n'y aura pas de risque, etc., etc. Moyennant quoi, c'est devenu une industrie avec plus de 250 000 morts par an et 250 000 morts qui rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de fric à des médecins qui sont des assassins, tout simplement. Alors, là, on nous fait le coup avec l'euthanasie. Il ne s'agit pas d'autoriser l'euthanasie, comme il ne s'agissait pas d'autoriser l'avortement. Il s'agit de gérer une situation au mieux des intérêts des Françaises et des Français.
Je peux vous faire une petite incise?
Oui,
je crains que ça ne marche pas toujours. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis aperçu, hélas, avec mon papa, que les personnes âgées qui avaient des revenus intéressants, on n'a pas tellement envie de les euthanasier. Parce que les maisons de retraite à 23 000 balles par mois, plus la gouvernante à 5 000 balles, ça fait 28 000. Alors que le pauvre papa, il doit coûter 6 000 francs à tout casser, parce qu'il mange deux nouilles et puis on lui donne un coup de gel le matin. Eh bien, plus longtemps ça durera, mieux ça vaut. Donc là, ils vont pas me l'euthanasier. Hein. Ils vont me le trouver. Il a fait 900 mètres pour aller de chez lui à la maison de retraite, on m'a dit qu'il avait le changement d'air lui avait fait du bien. Oui. Donc là, il y a un espoir de ce côté-là. Si vous avez du pognon, vous ne serez pas euthanasié.
Voilà, donc soyez riche, vous avez le droit de vivre. Le droit de vivre, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout ce que je voulais dire dans l'actualité, parce qu'elle n'est vraiment pas... Ah si, il y a quand même l'admirable... Ah, je voudrais rendre hommage au Figaro. Parce qu'on dit beaucoup de mal du Figaro. Mais là, il faut quand même rendre hommage au Figaro parce qu'ils ont fait un très très beau papier, un papier très, comme ça, très dur, très plein de. À propos de Chirac qui a quand même dit son fait à Bush. Alors, le Figaro nous explique que George Bush, George W, comme disent les crétins, George W. Bush, a fait savoir qu'il tenait la main à ce que. Intégration, pas mal, hein, la Turquie dans l'Europe. Et alors, Chirac a dit, Mais de quoi se mêle ce monsieur ? Qu'il s'occupe de ses affaires, est-ce que moi, je vais lui donner des conseils relativement aux relations diplomatiques que les États-Unis entretiennent avec le Mexique ? C'est ça qu'il a dit. Hein. Il a été très très dur. Hein. Et s'il croit qu'il va nous dicter sa politique, M. Bush, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au trou-fignon. Et d'ailleurs, je tiens à dire que l'entrée de la Turquie dans l'Europe est inévitable et qu'elle sera irréversible.
C'est grandiose.
Alors on sent le mec qui est un dur, hein. Il se laisse pas mener par le bout du nez, lui, au moins. On est tranquille. Alors le Figaro est ébloui par l'esprit de résistance de Jacques Chirac face aux insupportables pressions américaines. C'est quand même fabuleux, on croit rêver. Alors, je n'ai pas de conseil à donner à M. Serge Dassault qui a fait démontrer qu'il était parfaitement capable de mener ses affaires lui-même. Mais à sa place, en arrivant au Figaro complètement, puisqu'il vient d'acquérir 82% des actions du Figaro, enfin du groupe Figaro, peut-être qu'il pourrait passer un coup de karcher dans la boutique, ça ferait pas de mal. Alors, ça nous a encore donné cette affaire une occasion de se marrer, qui valait quand même le déplacement, parce que d'un seul coup, on a vu les journalistes du Figaro, enfin les journalistes, les gars qui écrivent dans le Figaro, qui écrivent, les gars qui sont payés par le Figaro, voilà, voilà. Et qui ont le nom dans le journal, s'émouvoir de la prise du pouvoir par M. Dassault en disant que ça constituait un risque pour la liberté de la presse. Quand j'aurai fini de me marrer, je continuerai. La liberté de la presse dans le Figaro et dans les journaux de province. Ils ont dit la liberté de la presse et la diversité des opinions. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il y a 70 journaux dans le groupe Figaro, hein, 70 titres, dont une trentaine de titres du quotidien de province. Les mêmes papiers passent dans tous ces journaux en même temps. Et naturellement, ils disent exactement la même chose. Il faut savoir que le Figaro, les patrons sont francs-macs et les exécutants sont trotskistes. Alors là, comme ça, les intérêts de la droite nationale sont vachement préservés, vous pouvez être tranquille. Et il y a une espèce de respect pour la bourgeoisie qui est formidable. Alors il y a des papiers absolument répugnants. Par exemple, l'autre jour, il y a eu un papier pour cette effroyable histoire de la petite Jeanne-Marie, qui expliquait, alors tout ça avec toute la cautèle hypocrite de ces gens-là, que il y a quand même quelque chose, c'est que la petite Jeanne-Marie, elle appartient à une famille
très catholique
qui ne vit pas dans la, qui ne partage pas la vie. Naturellement, la gosse, elle regarde pas la ferme à la elle regardait pas la ferme à la télévision, et ses parents se tapent probablement pas le film porno du dimanche soir sur la 6, évidemment. Donc ça fait d'eux, finalement, des suspects. Et on sentait très bien qu'au fond, ce qui lui aurait été arrivé, hein, c'était presque explicable, parce que quand on a une vie comme ça, quand on est catho, qu'on va à la messe tous les dimanches, hein, et qu'on appartient au milieu intégriste, hein, eh bien, il y a quand même danger. Alors, il faut dire d'abord qu'ils ne appartiennent pas au milieu intégriste, ils appartiennent à la mouvance traditionnaliste, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais les intégristes qui n'existent pas chez les musulmans, chez nous, alors là, il n'y a que ça. Il y a un islam modéré, mais il n'y a pas de traditionnalisme modéré, ça n'existe pas, il faut le savoir, chez les chrétiens. Et donc, on nous expliquait toutes ces choses-là. Or, cette pauvre petite enfant, les parents ont été admirables. D'ailleurs, ils ont publié aujourd'hui un communiqué pour remercier les gens qui avaient organisé des chaînes de prière, qui avaient fait dire des messes, qui avaient fait des chapelets, etc. C'est vraiment des gens fantastiques, d'un courage, d'une dignité absolument admirable. Et cet enfant était, elle irradiait littéralement la beauté, la fraîcheur, la pureté, c'est une véritable tragédie, hein. C'est quelque chose d'insupportable. C'est un signe de contradiction épouvantable. Eh bien, le Figaro trouvait vraiment que c'était des gens.
Oui, mais la dignité, c'est pas bien.
Yark. Je vais arrêter parce qu'après je vais être malade dans le studio, c'est pas bien. Alors, donc je disais quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Oui. Ça y est, je l'ai perdu maintenant. Merci à M. Beketch de bien vouloir noter que les critiques et sarcasmes qu'il adresse aux gays sont partagés par un très grand nombre d'homos non gays
Qui
commencent eux aussi à en avoir assez de toutes ces pitreries.
Les homos non gays, oui.
Voilà. Et une auditrice se demande.
Ça ne veut pas dire des homos tristes d'ailleurs. C'est simplement. Je comprends les gens qui ne sont pas. Moi, je n'ai pas besoin non plus d'exhiber ma vie privée. Je ne me sens pas obligé d'organiser une hétéro-pride pour aller montrer mes avantages aux personnes pourvues de curiosité. Non, mais enfin, c'est ça quand même. Imaginez une hétéro Pride dans Paris.
Pourquoi pas.
Sur le modèle de la Gay Pride.
Oh, bah, ça
hein, avec ces messieurs et ces dames en string, se trémoussant sur des camionnettes.
Avec des énormes paniers enfin, dans les fesses et
enfin,
tout.
On vit dans un monde de fous. Mais réveillez-vous.
Une auditrice vous demande, pensez-vous que les homosexuels de la RATP auront un logo pour qu'on puisse les reconnaître?
Ah, mais oui, moi je prends un petit carré rose.
Il doit y être sur le plat.
Un carré rose.
Et puis alors.
Le triangle avait été déjà pris, hein,
je crois. Oui, c'est pris. Ouais.
Et alors, un rappel à l'ordre, je ne sais pas de qui il vient, mais enfin,
la grande
c'est un
loge.
Rappel à l'ordre. Il serait bon de signaler que 110 €, c'est le prix de par an, c'est le prix de l'abonnement.
Ah oui,
pour avoir
le prix
plus.
Numéros.
Pour avoir de plus nombreux abonnés, parlez, dites qu'on peut payer en plusieurs fois par mois.
Mais je veux bien le dire, mais ma petite femme, pour qui j'ai le plus grand respect, on a fêté hier soir, je vous le signale, d'une façon extrêmement modeste, le 36e anniversaire de mariage.
Ah bah c'est bien.
C'est la résistance.
Pour qui vous arrangerez avec elle. Bon, alors là, moi je suis pas dans le coin. Et non, je pense qu'effectivement, elle a une résistance, elle est en fer, cette petite femme-là. Et donc, elle veut bien qu'on le dise, mais enfin, ça lui ajoute tellement de travail
oui,
que parfois
compliqué.
Elle frémit, parce que c'est d'une complexité inouïe, parce que naturellement...
Ah oui, je la comprends.
Pas du tout par malhonnêteté, c'est évident, c'est pas de la malhonnêteté.
Non, mais c'est compliqué.
C'est compliqué, et puis, donc, les abonnés à Arsor oublient parfois.
De repayer.
Or, on s'est engagé à pas leur rappeler, pour pas les embêter. Ce qui fait qu'ils payent 3 mensualités,
puis
ils oublient les autres. Et alors, à la fin de l'année... Très, avec là une régularité magnifique, ils envoient leur réabonnement et ils envoient la première mensualité de leur réabonnement. Alors qu'en réalité, c'est la 4e mensualité de l'abonnement précédent. Donc là, il faut expliquer. Okay. Ça fait des choses compliquées. On a parfois des réactions, je dirais, peu amènes pour pratiquer l'euphémisme. Des gens qui nous disent comment. Bon, voilà. Donc si vraiment on ne peut pas faire autrement, on peut payer en plusieurs fois, mais. Pour tout dire, j'aimerais mieux qu'on paye en une seule fois. Voilà.
Oui, oui.
Puisque vous me forcez à parler d'argent, ce que je déteste. Surtout quand c'est moi qui le dois.
On y est arrivé.
Et alors, ça suit ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai lu tout à l'heure. Dans le dernier numéro, il faut préciser ce qu'a fait le marquis jour par jour. Parce que c'est une initiative qu'il faut continuer et qui doit normalement amener des clients,
Marquis,
des abonnés.
Ne faites pas le numéro de Modeste, hein, ça
si
vous fait
vous
plaisir.
Si vous voyez Marquis,
enfin, heure par heure, je vais dire que j'ai fait la vaisselle à telle heure. Que j'ai...
Si vous faites la vaisselle, vous avez des domestiques pour faire la vaisselle.
Non, j'en ai plus.
C'est incroyable. À quoi ça sert d'être marquis sur
Non, justement, c'est monsieur authentique, c'est pour ça que je n'ai pas de vaisselle.
Et on vous demande, avez-vous vu lundi, je suis sûr que non, mais enfin, avez-vous vu lundi sur France 2, l'émission ahurissante d'Ardisson sur les jet-sets, le cannabis et les nudistes. Monsieur Ardisson n'avait trouvé personne de mieux qualifié pour parler de la drogue que monsieur Besancenot et Doc Gynéco.
Non, mais
c'est vraiment lamentable, c'était à la limite du racolage.
Ah ben quand on voit Besancenot et Doc Gynéco, s'ils sont camés, on n'a vraiment pas envie de les imiter, là je vous le dis carrément, hein. Ça, vraiment, alors, c'est comme remède, on peut pas faire mieux. Hein,
Je vous parlerai de Doc Gynéco, c'est un jeu.
Oui, non, mais pas là.
Non, mais c'est un jeu, Doc Gynéco, il est pas plus drogué que vous et moi.
Ah ben, je sais bien,
c'est pas
un énervé, quand même.
Mais non, il n'est pas énervé. Mais il est extrêmement malin, il a trouvé un créneau. Quand vous le rencontrez dans un théâtre avec sa femme, c'est un grand bourgeois.
Oui, oui. Hein? Il doit élever ses enfants à la férule, en plus.
J'en suis à peu près convaincu. Oui.
J'ai eu des lumières récemment sur la façon dont les dirigeants de Libération, qui prônent le laxisme, la liberté, la fumette, la pompette, tout ce qu'on veut en couronne, etc., dont ils élèvent leurs enfants. Mais je peux vous dire que, curieusement, ça ressemble très très peu à ce qu'ils écrivent dans leur journal. Tous les enfants sont dans des... C'est l'école alsacienne, institution catho.
Voilà.
C'est les vacances dans les meilleures... Dans les meilleures boîtes les plus serrées, où on travaille 4 heures le matin, l'après-midi, on a le droit de faire du tennis, ou si on a vraiment bien travaillé un peu de cheval. Voilà, c'est vraiment... Donc il ne faut pas se laisser trop impressionner par ces gens-là.
Bien
voilà.
Savez-vous pourquoi les Hollandais d'un certain âge viennent en France? Eh bien, c'est pour échapper à l'euthanasie qui est un sport national dans leur pays.
C'est pour ça que Dave est arrivé très tôt. Là.
Moi, je trouve qu'ils vont organiser des chasses aux vieillards en Hollande. Ah, ce serait amusant, moi. Plus des Hollandais, en plus.
La reine est menacée.
Oui.
Et dans Valeurs Actuelles, de la semaine dernière, on annonce le salaire complet de l'imam de Vinicieux, oui, qui a été viré, 66 500 francs, sans avoir cotisé.
C'est l'imam qu'il faut virer, c'est pas le salaire.
Non, mais, alors, je voudrais pas faire de la peine à mes confrères de Valeurs Actuelles, mais c'était dans le Libre Journal il y a,
oui, c'est ça,
il y a 20 jours à peu près. Donc, mais en fait, c'est bien que ce soit dans Valeurs Actuelles parce que ça confère un sérieux considérable à l'information qui, dans le Libre Journal, paraît...
Ça prouve que
inventé par un cerveau tordu. Je vous signale d'ailleurs que j'ai le plaisir de découvrir que je faisais partie des sites racistes, enfin que le site du Libre Journal auquel je n'ai absolument aucun, avec lequel je n'ai aucun lien, curieusement, fait partie des sites racistes répertoriés par la commission idoine et adéquate de ministère de l'Intérieur.
C'est très surprenant.
Ouais. Je comprends pas pourquoi. Ils sont pas du tout racistes.
Pourriez-vous nous donner l'équivalent en francs pour le prix de l'abonnement? Eh bien, je viens de faire le calcul, 7216.
Eh ben, bravo, merci, alors. Non. Merci du renseignement, parce que alors, ça va, là, ça vous m'avait fait gagner beaucoup, beaucoup d'abonnés.
Dans 7000,
en plus, les gens disent, il est complètement fou, ce Beckett.
Oui,
j'ai merci. Et elle était institutrice, alors je vous dis pas, quand on s'étonne après de ne pas avoir.
C'est bien la peine que je cherche à vous faire de, à vous rendre votre.
Ça fait 700 et quelques francs,
parce que 70.
Je comprends mieux pourquoi, aujourd'hui, la France est tellement en retard sur le terrain des mathématiques fondamentales.
Mais j'ai oublié comment ce que je m'apprenais maintenant. Vous savez bien qu'on perd la tête à mon âge.
Ouais, non, vous ne perdez rien du tout, mais...
Enfin bref, pour une fois que j'essaie de faire une...
Donc alors combien? 700 francs.
722
voilà,
francs.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est bien, merci. Donc pour 722 francs obsolètes, vous pouvez avoir un magnifique journal.
Et pour une rare fois où vous lisez les messages sélectionnés, pouvez-vous éviter à chaque lecture 2 secondes de faire un commentaire pas forcément utile? En un mot, de lire à la file. Mais nous, on aime mieux lire et répondre. On a le droit quand même.
Quand même d'abord, s'il n'est pas content.
Oui, puis c'est un autre rythme par rapport à d'autres émissions.
Il a qu'à écouter Radio Gay.
Bon, ben,
c'est tout?
Oui.
Non, ça c'est vraiment blessant. Oui.
C'est pas que c'est blessant, ce qu'on comprend.
Quoi, bon,
Nicolas Sarkozy se lance dans le cinéma dans une nouvelle version de Pour qui sonne le glas?
Mais ça doit faire allusion à une information que j'ai pas.
C'est mal transcrise, Pour qui sonne le glas?
Oh, bon.
Oh, ben, on est bien parti ce soir. Hein.
Oui, il y a de la chaîne. Bon. Bien, merci mon cher Marquis d'avoir donné à cette émission l'altitude qu'elle méritait. Et on va écouter un petit peu de musique pour se remettre en jambes. Si Franck veut bien, dès qu'il le prend. Et puis ensuite, on recevra, alors là, avec beaucoup plus de tenue, mon excellent camarade Rénal Sécher, historien français, qui va nous parler de la Chapelle-sur-Mer, Basse-Mer, mais d'une façon qui ne s'est jamais produite sur cette radio. Hein. Vous avez souvent parlé, Rénal, de la Chapelle, Basse-Mer, dans cette émission et dans d'autres, mais jamais sur, comme ça. On va vous apporter, enfin, Rénal va vous apporter des informations et des témoignages qui sont assez inattendus. Après un petit morceau de musique.
Thank you. Разогнали боево, и на тихом океане свой закончили
Voilà, donc nous recevons Renald Sécher, et pendant qu'on entendait cette version du générique de cette émission, ça c'est autre chose, c'est bien aussi, on feuilletait avec Renald Sécher le dernier numéro de la Nef, mensuel catholique et indépendant, et on était tous les deux, et pas seulement tous les deux, d'ailleurs tout le monde était assez impressionné par la qualité de ce magazine, de ce mensuel, qui a fait vraiment des progrès. Enfin, si j'ose dire, je suis pas distributeur de certificats de bonne qualité, mais je trouve qu'ils ont fait des progrès énormes, et c'est vraiment très très bien. Et là, il y a une série de papiers très intéressants, et notamment un papier sur Chesterton, dont on parle beaucoup en ce moment, pour des raisons probablement d'un anniversaire arrangé. Il est né il y a 130 ans, quelque chose comme ça. Il y a longtemps. Et un joli papier sur la fameuse phrase qui avait fait scandale. une idiote du monde qui avait écrit que à l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz, il y avait la phrase « La vérité vous rendra libre ».
Oui.
Ce qui avait fait exploser Jean Madiran de colère. Il a toujours pas décoléré d'ailleurs. Et donc il y a un papier sur « La vérité vous rendra libre » qui est fait par l'abbé Jean-Pascal Perreux, avec une très très belle photo tirée de la Passion de Mel Gibson, avec Pilate interrogeant Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? Voilà, donc si vous pouvez acheter, enfin moi je vous recommande d'acheter et de lire La Nef, parce que c'est vraiment tout à fait remarquable.
Et l'évolution de La Nef, il faut le dire, est exceptionnelle.
Ouais. Et puis alors la qualité du contenu est tout à fait remarquable. Leur adresse, c'est boîte postale 48 78810 Feucherolles, F-E-U-C-H-E-R-O-2-L-E-S. Et le prix du numéro, c'est pas marqué sur la couverture. On pense que comme c'est vendu par abonnement,
dans la foulée,
pas besoin d'argent, je sais pas.
Dans la foulée, vous pourriez peut-être nous donner aussi les références de la version des Partisans blancs qu'on vient d'entendre.
Bah, j'espérais qu'on ne me poserait pas la question, parce que pour ne rien cacher, je suis désolé. C'est une version qui a été j'ai honte de le dire, mais je suis obligé quand même. C'est une version interprétée par les chœurs de l'armée rouge. Et bah oui, bien fait, c'est malin. Donc c'est un disque quoi ? Vagram, 30. Je n'arrive pas à lire, mais enfin c'est un disque Vagram, voilà, c'est tout ce que peut les chœurs de l'armée rouge. C'est un, comment dit-on, un compact disque.
Un disque compact.
Voilà. Et dedans, il y a Kalinka. On écoutera peut-être Kalinka tout à l'heure, parce que la version est belle. Korobeniki, En route, Par les collines et les plaines, qu'on vient d'entendre. L'armée rouge est la plus forte, ce dont je n'ai jamais douté personnellement, mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps de nous en faire la démonstration.
70 ans, c'est beaucoup, quand même.
Ah, oui, mais pour une armée, c'est... ce qui n'est pas intéressant, c'est pas de survivre, c'est d'avancer. Soirée de Moscou. Le temps du muguet, Smuglianka, le galop de la Troïka, qui est très joli aussi, la forêt près du front. La forêt près du front, c'est pas une histoire de coiffeur, hein, c'est non, pas du tout. Anastasia, Plaine ma plaine, les vaillants cosaques, les yeux noirs, Otchichornia, et Varshavianka. Voilà, la petite polonaise, la petite Varsovie.
Merci à Serge de Bekech pour cette version des Partisans blancs qui prouve qu'en prenant des leçons de chant, le cœur montjoie s'améliore sensiblement. S'ils continuent comme ça, dans une vingtaine d'années, ils pourront chanter à l'Opéra de Paris.
Non, mais là, il faut dire que, ça c'est méchant, mais la version que je passe en générique en générique de l'émission, la version des partisans blancs par le chœur Montjoie, c'est une version qui doit avoir maintenant pas loin de 20 ans. Et donc,
bien.
À l'époque, ils étaient pas très affûtés en matière de chant choral. Ils ont fait des progrès énormes. Arnoux les a fait vraiment travailler. Puis maintenant, c'est une véritable chorale d'hommes. Ils font c'est très travaillé. C'est beau ce qu'ils font. Hein.
Et ils sont tellement sympathiques.
En plus, ils sont adorables. Oui, ça, c'est évident. Ils sont gentils comme tout. On s'amuse beaucoup. Et puis, c'est des amis. Puis, c'est tout. Puis,
oui,
c'est,
oui, hein, oui.
Voilà. Bon. Alors.
Puisqu'on est dans les méchancetés, je continue.
Oui, allez-y, mais vite, parce que je voudrais...
J'ai pensé à vous hier, Serge Le Becketch, à Écône, pour les ordinations, en apercevant des prêtres en bonnet carré. C'était d'anciens hérétiques hétérodoxes revenus dans l'église.
Ces messieurs de Grenoble, avec leur bonnet carré. C'est ça, là. Ce sont des prêtres orthodoxes.
Ah oui, bonnet carré, j'avais pas...
Enfin...
attendez, oui.
Non, il faut parler dans le micro.
Dans le micro.
Parce que vous allez vous faire tirer les oreilles par Franck.
Mais comme je disais des choses pas très intéressantes, c'est pas grave.
Bon, bah, c'est bien. Non. Ah, mon cher Anal Secher, je vous ai demandé de venir à la suite d'une conversation que nous avons eue sur l'histoire de la chapelle Basse-Mer. Pas l'histoire historique, si j'ose dire, de la chapelle Basse-Mer, mais l'histoire de l'aventure que vous avez vécue avec la chapelle Basse-Mer, et qui est quand même, bon... Quelqu'un qui décide de restaurer un vieux monument, c'est pas d'une originalité foudroyante, il y a de nombreux cas. On en citera un tout à l'heure, puisque je signale que l'abbé Schaeffer, vous ne cherchez pas de bonne volonté en ce moment sur le chantier, vous ?
Non, mais non, si elle se présente, on les prendra. Ouais.
Alors, s'il n'y avait plus de place chez vous, je signalerais qu'il y a le groupe Juventus Christi qui organise quelque chose pour la restauration d'une chapelle chez M. l'abbé Schaeffer. Je donnerai cette information plus tard. Donc, tout ça n'est pas follement original. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça. Mais quand vous avez commencé à me raconter la façon dont les choses s'étaient mises en place, la façon dont elles s'étaient faites, j'ai eu une très curieuse impression. J'ai eu l'impression que ça s'était pas fait tout seul. C'est-à-dire que vous n'étiez pas le seul décisionnaire dans cette affaire. Et je vous ai tout simplement demandé de venir nous raconter ces petites fioretti de l'histoire de la chapelle Basse-Mer. Alors d'abord, si vous voulez nous expliquer ce que c'est que la chapelle Basse-Mer, sur le plan historique, et ensuite sur le plan géographique, où ça se trouve, et également sur le plan architectural. Alors, qu'est-ce que c'était quand vous l'avez découvert?
Alors, c'est vrai que j'ai été surpris par votre surprise, parce qu'on s'appelle régulièrement et vous me demandez régulièrement des nouvelles de la chapelle. Et c'est vrai que régulièrement, je vous raconte comment on avance et que régulièrement, vous êtes surpris. Et c'est vrai que la dernière fois que nous nous sommes appelés, il y a à peu près 3 semaines, où je vous ai raconté une addition d'aventure qui nous est arrivée, vous m'avez invité gentiment à votre émission en disant « ça serait bien que vous veniez ». Et c'est vrai que j'étais un peu surpris par vos invitations, parce que je suis assez mal à l'aise pour parler de ça, parce que je ne veux pas qu'on glisse aussi dans ce que j'appelle le mystico... dingo, et je veux que l'on parle sereinement de ce qui s'est passé à la chapelle Basse-Mer, de ce qui se passe sur cette commune, sur cette paroisse. Alors la chapelle Basse-Mer, c'est quoi? C'est un des nombreux villages martyrs de la Vendée militaire, un des 700 villages exterminés entre janvier 1794 et avril, mai, juin 1794. Et à la chapelle Basse-Mer, il y avait un prêtre réfractaire qui s'appelle le recteur Pierre-Marie Robin, qui était d'ailleurs natif de la chapelle Basse-Mer, curé du Pèlerin, qui est un village à peu près à 50 km de la chapelle Basse-Mer, et qui est venu chercher la sécurité et la paix au sein de sa famille, qui est venu se réfugier dans sa paroisse natale. Et ma famille était originaire de cette paroisse, et je signale que d'ailleurs l'abbaye que nous connaissons tous avait son ancêtre aussi curé réfractaire à la chapelle Basse-Mer, et que ma famille a protégé, puisqu'ils étaient un des seigneurs de cette commune. Et c'était un véritable bain de sang, puisque sur une communauté de 3500 habitants, il y a eu plus de 800 personnes exterminées, et que dans le canton du Loroux-Botreau, qui est le canton matriciel de la chapelle Basse-Mer, il y a eu à peu près 3000 personnes d'exterminées. Et ce village a connu, au niveau historique, une certaine renommée parce qu'il a été l'objet de ma thèse de troisième cycle, qui a été soutenue en 83 à Paris 4 Sorbonne avec les professeurs Jean Meyer et Pierre Chenu. Et ce village est sorti de l'anonymat des 35 000 communes de France, puisqu'il a été l'objet d'une thèse scientifique. Et à travers ce carottage, comme on dit au sens scientifique du terme, on a démontré que la Révolution française avait commis une véritable politique d'extermination et d'anéantissement de la Chapelle-Basse-Mer. Et les bilans de cette commune sont des bilans très lourds, puisque, comme je vous le disais, au niveau de l'habitat, il y a eu sur 3500 habitants 800 habitants d'exterminés, et au niveau de l'habitat, sur un habitat de 1072 demeures, il y a eu plus de 362 maisons détruites. Et donc l'objet de ma thèse de troisième cycle, qui avait comme sous-titre Révolution et contre-révolution, a été de démontrer comment un village qui, somme toute, est un des nombreux villages de l'Ouest plutôt favorable à la Révolution, va basculer dans la résistance puis dans la contre-révolution au nom de la liberté, et notamment celle de vivre chrétiennement, et avec toutes les conséquences politiques, économiques, sociales, culturelles du 19e et 20e siècle. Alors cette chapelle, l'histoire de cette chapelle, c'est une chapelle qui a un statut paroissial, c'est-à-dire que vous avez l'église paroissiale, et de chaque côté de cette église, dans la vallée, vous avez une chapelle paroissiale, et de l'autre, sur les plateaux, une autre chapelle paroissiale, et le tout fait la communauté paroissiale. Et cette chapelle a été, semble-t-il, construite au XIe siècle, restaurée et agrandie au XVIIe siècle. Elle a été brûlée et sans doute l'objet d'un massacre en 1794, le 10 et 17 mars 1794, vendue comme bien national, et d'ailleurs acheté par ma famille, et puis ce sont des lointains cousins qui en ont hérité. Et dans les années 1980, alors que j'étais tout jeune, ma grand-mère recevait chez nous un prêtre qui était natif de la paroisse, et après le repas, nous sommes allés dans la campagne nous promener, et devant un bosquet, il m'a dit qu'il y avait à l'intérieur une chapelle, et j'étais vraiment tout jeune, hein. Il m'a dit qu'un jour je la resterai. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on entend et on ne comprend pas, puis évidemment, j'ai éclaté de rire. Et puis, les années ont passé, et un jour, en repensant devant ce bosquet, je me suis rappelé de la conversation avec ce prêtre qui s'appelait l'abbé Maisonneuve, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et je me suis glissé à l'intérieur de ce bosquet, et j'ai vu un bâtiment rural, conséquent, 110 mètres carrés au sol, qui était en ruine, et à l'intérieur duquel poussaient des gros arbres, des bosquets de lierre, vous savez, je crois que le mot est explicite, et je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, la première question que je me suis posée, comment la restaurer, c'est-à-dire, qui en est le véritable propriétaire? Et je me suis rendu compte qu'il y avait 11 copropriétaires, et j'ai commencé à essayer de trouver ces 11 copropriétaires, et j'en ai trouvé 10, et le 11e était un canois qui politiquement était très marqué et refusait toute vente. Et j'ai travaillé 17 ans pour l'acheter.
17 ans.
17 ans. Et un jour j'étais un peu j'avais oublié, et un jour en allant voir le notaire, il me dit, ah, le dernier, le 11e copropriétaire m'a donné l'accord de vente. C'était en 1992. Et puis, je l'ai acheté, pas très cher, 1000 francs. Et puis, mais il n'y avait que la chapelle. Et c'est là où les choses vont commencer à devenir intéressantes. Donc, je l'ai acheté, c'était très simple, 1000 francs, c'est rien. Et j'étais tout jeune marié, et je suis arrivé...
Vous avez dit, j'imagine, à votre femme, pour 1000 francs, on ne va pas faire une histoire.
Ouais. Oui, mais ma femme est toujours d'accord. Voilà, ma femme est un peu comme la vôtre. Elle nous aime et nous dit toujours oui.
Oui, on peut... Oui, bon, d'accord.
La mienne, en tout cas, mais c'est une bretonne. Et donc je suis arrivé, c'était le 13 mai 1992, et je suis arrivé chez mes beaux-parents disant que je viens d'acheter une chapelle, et je me souviendrai toute ma vie de la réaction de mon beau-père qui est un industriel qui me dit, et bien entendu, tu vas l'arrêter, elle est en ruine. Je réponds, oui, bien sûr. Et bien entendu, tu vas la restaurer. Tu sais que tu as une femme, mais que tu as des jeunes enfants. Oui, beau papa, mais on y va. Et donc, on a fait un deal entre ma femme et moi, et on était d'accord pour la restaurer. Alors, tout commence à ce moment-là. On s'est dit, comment la restaurer? Ma première idée était de la donner à l'évêque de Nantes. Et là, j'ai rencontré un prêtre qui avait restauré Notre-Dame des Dons à côté de Nantes, et qui me dit, ne fais surtout pas cela, parce que lorsque tu donnes un bâti à un évêque, il l'accepte bien entendu, il la rase, et comme c'est un bâti, il construit un immeuble de rentabilité, donc il ne faut pas faire cela. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire. Et on s'est dit, on va monter une association, et puis on va la restaurer, puis on va l'offrir après au diocèse. Et là on m'a dit, mais ne fais pas ça non plus, parce que ça n'intéresse pas l'évêque de Nantes. Et effectivement, je lui avais envoyé une lettre, et il m'a expliqué que ça ne l'intéressait surtout pas de restaurer une chapelle, parce que c'était trop coûteux, etc., etc., et qu'il ne voyait pas du tout l'intérêt de restaurer une chapelle. Et là, je me suis dit, bon, puisque personne n'est intéressé, ni la paroisse, ni le diocèse, ni la commune qui avait prononcé, comment dire, un ordre de destruction par rapport à cette chapelle qui était dangereuse, je vais monter une association loi 1901, et nous allons la restaurer nous-mêmes. Et donc c'était en plein succès du génocide franco-français, la Vendée vengée, un livre qui a changé un peu le cours de la perception que nous avions de la Vendée. Puis je faisais un certain nombre de conférences en partant du principe que j'allais restaurer cette chapelle à partir d'un groupe que nous allons constituer, et puis j'allais m'imposer comme chef de chantier. Je n'y connaissais rien bien entendu, mais tout s'apprend. Et pendant des mois et des mois et des mois, j'ai ramé pour créer une association, pour vanter l'intérêt de restaurer une chapelle. Et la première histoire qui nous est arrivée, c'est que j'étais un peu désespéré parce que personne ne répondait à notre appel. Et j'avais décidé de convoquer l'association un lundi soir pour lui dire simplement que j'avais échoué. Et donc les 5 membres de l'association étaient attendus ce lundi à la maison autour d'une table, et j'allais leur avouer que j'avais échoué dans cette volonté de restaurer cette chapelle à partir d'un groupe. Et le matin, je reçois une lettre d'une dame qui s'appelle Coralie Join, qui était membre d'une association Saint-Pierre Chanel, et qui m'écrivait ceci: monsieur, je vous ai entendu parce que vous recherchiez un groupe pour restaurer une chapelle. Moi, dans cette association, nous avons 50 jeunes et nous recherchons un lieu pour faire un travail de restauration. Et donc, si vous acceptez, nous serons des vôtres. Et donc, ça a été le premier petit miracle qui fait que quelques mois plus tard, le 1er août, jour de la Saint-Pierre au Lien, puisque la dédicace de la chapelle est Saint-Pierre au Lien, nous nous sommes retrouvés, un groupe de 50 jeunes avec l'Opus Marié, les chanoines réguliers de Gap, à restaurer cette chapelle que nous avons quasiment entièrement démontée et remontée. Et la première année, ça s'est effectivement très bien passé. Alors, deuxième expérience, c'est qu'une fois qu'on avait fait ce démontage et ce remontage...
Pardon, je voudrais poser une question technique. Quand vous dites que vous avez démonté, c'est-à-dire vous avez numéroté les pierres, vous les avez écartées, et puis ensuite vous avez nettoyé le terrain, puisque vous nous disiez que c'était un bosquet, alors, c'était plein d'arbres...
En fait, ça s'est passé en trois étapes. La première étape, c'était devenu un dépotoir. Donc on a nettoyé le dépotoir et nous avons vu ces murs qui n'étaient plus couverts depuis 1920. À peu près, la charpente s'était effondrée en 1920. Et donc on a dégagé, en fait, pour n'avoir plus que les murs qui étaient instables et les portes et les fenêtres qui étaient du tuffeau, qui est une pierre tendre, avaient quasiment disparu. Et donc, en termes techniques, parce que maintenant j'ai acquis un vocabulaire technique, on a décidé de démonter tout ce qui est instable, et lorsque il fallait aller à la base, aller aux substructions du bâtiment, de faire ce qu'on appelle des cicatrices, c'est-à-dire que l'on casse sur X distance, on démonte tout jusqu'à la base, et on cicatrise avec de la pierre, du béton, etc., pour consolider le tout. Alors ça, c'est du schiste du pays, c'est de la pierre du pays, vous savez, c'est vraiment très simple, les gens n'allaient pas très loin chercher la pierre.
Mais là, vous aviez des architectes pour vous aider.
Alors, là aussi, en fait, au fur et à mesure qu'on va parler, on va raconter un certain nombre d'histoires qui vous ont surpris. En fait, on avait un maçon qui avait travaillé pour ma belle famille et pour moi dans le cadre d'une entreprise. Et je ne connaissais rien du tout à l'architecture et à la restauration. Et ce chef d'entreprise, qui est Alain Bouchard, et qui est parti à la retraite, qui est un grand entrepreneur rennais, avait entre autres un contremaître qui s'appelait Étienne Fontaine. Je prononce le nom parce que ça fait partie maintenant du groupe. Et ce monsieur partait à la retraite le 1er août. Et comme je n'avais pas de technicien, je me suis dit, mais si je vais voir Alain Bouchard, je vais lui demander de nous prêter un maçon et on va pouvoir commencer les travaux. Il me dit, mais moi je veux bien te prêter un maçon, mais ça a un coût conséquent. Parce que, outre le salaire, il y a les charges sociales, etc. Et puis, c'est pendant le mois d'août, et puis le mois d'août, l'entreprise est fermée. Par contre, je peux te proposer cet Étienne Fontaine, puisqu'il sera en retraite le 1er août. Et je suis allé voir ce maçon, un breton, et je lui dis, mais monsieur Fontaine, est-ce que vous accepteriez d'accompagner un groupe de jeunes pour restaurer une chapelle? Il dit, non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que moi je suis en retraite, ça fait 40 ans j'attends ça, et je suis fatigué. Alors j'ai insisté parce que son patron m'avait dit d'insister en lui demandant simplement un jour. Et donc j'ai négocié avec lui et je lui ai demandé un jour. Et donc il est arrivé le 1er août, son premier jour de retraite sur le site de la chapelle Basse-Mer. Et j'avais dit aux 50 jeunes, vous savez, c'est un paysan, un fils de paysan, un maçon. Expliquez-vous que nous, gars de la ville, on n'y connaît rien et qu'on a besoin de lui. Et peut-être que le soir, il restera et reviendra le lendemain. Et toute la journée, tout le monde, ces 50 jeunes, ont passé leur temps à dire « Monsieur Étienne, est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Monsieur Étienne, est-ce que vous pourriez venir nous aider ? Monsieur Étienne, pourquoi est-ce qu'on a fait mal ?» Et le soir, le gars était complètement épuisé et heureux, et je suis allé le voir en disant « Monsieur Étienne, est-ce que demain vous serez des nôtres ?» Et il me dit oui, et il ne nous a jamais, jamais quitté depuis. Et ça fait 10 ans que régulièrement, il vient tous les ans, et sa femme, qui était une femme extraordinaire, qui était une paysanne aussi, est toujours restée sur le chantier, et elle est décédée il y a 3 ans, et tous les jeunes ont tenu à assister à son enterrement, qui était un très bel enterrement, un très bel hommage rendu à ce couple qui s'est donné à la chapelle. Alors ça, c'était la première année. Et durant cette première année, s'est passé une autre chose vraiment extraordinaire. C'était le 15 août, la journée, nationale en fait. Et j'expliquais que le vœu au père Emmanuel, qui est un des chanoines réguliers de Gap, qui est notre aumônier, qui est toujours resté d'ailleurs notre aumônier, que ce vœu de Louis XIII était né dans le marquisat de Goulaine dont dépend la chapelle Basse-Mer. Et d'ailleurs, si vous allez à la chapelle Basse-Mer, vous avez une gigantesque église néogothique, et un des grands vitraux de la chapelle Basse-Mère est consacré au vœu de Louis XIII. Et vous avez d'ailleurs, c'est une église qui date des années 1870-80. Vous avez aussi les armes du roi de France parce que le comte de Chambord a financé ce vitrail. Et vous avez un gigantesque vitrail du vœu de Louis XIII qui a été financé d'ailleurs par un de mes arrière-arrière-grands-pères. Et en fait, le vœu de Louis XIII est dû à une religieuse qui s'appelle Goulen, qui était liée à la famille de Goulen, marquis de Goulen, dont dépend la chapelle Basse-Mère. Et j'ai raconté ça au père Emmanuel en disant, vous savez, ce vœu, il est né en fait dans le marquisat de Goulen et entre autres à la chapelle Basse-Mère. Et ça serait bien que nous répétions ce vœu le 15 août. Et le père Emmanuel m'a pris un peu de haut en disant « Mais tu plaisantes, la chapelle Basse-Mère, ce n'est pas le centre du monde. » J'ai dit « Je t'assure, c'est vraiment là qu'est né ce vœu. » Et là, il s'est passé une chose incroyable. Il dit « Ce qui serait bien, c'est de retrouver le serment, en fait, de Louis XIII. » Évidemment, nous n'avions pas ce serment. Et le matin, quelques minutes avant la messe, je vois arriver Quinquin, un vieil ami, qui était tombé en panne quelques heures auparavant à côté de Nantes et qui n'avait trouvé que comme garage un garage à la chapelle Basse-Mère. Et en arrivant à la chapelle Basse-Mère, il s'est dit « Mais pourquoi ?» Je n'irai pas voir ce que fait donc l'équipe de Rénal. Et donc, il venait. Je lui dis, écoute, tu tombes très bien parce que nous allons faire une messe autour du vœu de Louis XIII. Il me dit, ben écoute, j'ai les photocopies du vœu de Louis XIII dans ma voiture. Je commence à faire les photocopies. Mais oui, parce que j'allais au château de Goulen et donc on a fait une cérémonie pour cela. Et puis j'avais fait des photocopies, une cinquantaine de photocopies pour les distribuer à l'assistance. Et puis malheureusement, je suis arrivé un peu tard et je n'ai pas pu les distribuer.
C'est extraordinaire.
Je lui ai dit, mais ça tombe bien parce que nous sommes 50 et que on va distribuer ces photocopies. Et donc chaque membre de l'Assemblée a eu sa photocopie du vœu de Louis XIII. Et ça n'a été qu'un début.
L'abbé devait quand même être un peu surpris, non ?
Il était stupéfait, bien entendu. Et ça l'a vraiment beaucoup perturbé, comme nous aussi on a été perturbés par cela. Alors la chapelle Basse-Mère, puisqu'on a décidé de raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe sur ce site, mais je dis... Faites attention, hein, je ne vois pas du tout de manifestation. On ne fait que raconter
les choses. Ce qui est amusant, c'est que ça confirme ce que tous les catholiques savent, c'est que quand on demande quelque chose,
on l'a.
Tient, il suffit de le demander avec suffisamment d'insistance. Et là, il y a une ou deux histoires qui montrent aussi que, en ce qui concerne l'insistance, vous avez une leçon à recevoir de personne.
Absolument.
Et que ça fait pas du lieu un lieu de pèlerinage particulier, ni un lieu où il se passe des phénomènes magiques. C'est tout simplement la confirmation,
il faut demander
de la force de la prière et l'efficacité de la prière. Voilà, c'est valable. N'importe, on peut faire ça dans son appartement de La Ferté-sous-Jouarre. Ça marche aussi bien. C'est tout. C'est pas une tentative de faire un nouveau Lourdes.
Non, on est bien d'accord.
C'est bien clair.
Alors, on va parler de l'achat des terrains. Lorsque j'ai acheté cette chapelle, donc le 13 mai 1992, je n'ai acheté que le bâtiment. Il n'y avait absolument aucun terrain autour. Et pour restaurer, il faut de l'espace, ne serait-ce que pour étaler les matériaux, pour véhiculer, etc. Et il y avait une immense prairie à droite de la chapelle. Et au moment de la signature de l'acte auprès du notaire, qui nous aide beaucoup d'ailleurs, puisqu'il nous prête la demeure où nous sommes à l'heure actuelle, et je lui rends hommage et je le remercie, il y avait une grande prairie. Et je dis au notaire, il faudrait vous renseigner si un jour ces propriétaires accepteraient de vendre cette prairie, ne serait-ce que pour nous faciliter la tâche de la restauration. Et la réaction du notaire a été très nette. Ils ne vendront sûrement pas parce que c'est une vieille famille et elle tient son terrain. Puis quelques mois plus tard, 8 mois, je retrouve ce notaire pour une autre histoire. Il me dit, ah, dites donc, le terrain dont vous me parliez, il est à vendre parce que le propriétaire est décédé et son épouse a décidé de vendre. Donc, j'appelle l'épouse en disant, ben voilà, je suis intéressé par ce terrain. Et elle me dit, non monsieur, je suis vraiment désolé, mais il est vendu. L'acte est en cours de passation avec cette future propriétaire. Et cette femme, politiquement, était très marquée. Et je lui ai dit, bon, je vais aller la voir, et puis je vais essayer de négocier avec elle. Et je vais la voir, et puis j'essaye de négocier, ça dure une heure. En disant, mais on a besoin de ce terrain, est-ce que vous accepteriez de nous le rétrocéder? Et c'était non. Et au moment de partir, au bout d'une heure, j'étais un peu épuisé, il m'est venu une idée, mais complètement absurde. Et je lui ai dit, mais madame, qu'est-ce qui vous intéresse? Le haut ou le bas du terrain? Et elle me dit, mais le bas, bien entendu. Et je lui ai dit, mais madame, mais c'est le haut qui m'intéresse. Et donc, on a divisé le terrain en deux, et j'ai racheté le haut, et elle a conservé le bas. Puis, la troisième partie du terrain, c'était un champ de 2,5 hectares, un vignoble. Le vignoble, dans la région nantaise, coûte extrêmement cher et qui appartenait à deux structures. Excusez-moi, je suis un peu juriste. À la fois à un viticulteur et le deuxième à une SARL. Et pour construire le mémorial que nous voulons faire, la mairie posait comme condition pour construire un mur que nous soyons propriétaires de 3 mètres, ce qui est la loi. Et donc, je suis allé voir cet agriculteur en disant, mais est-ce que vous accepteriez de nous vendre 3 mètres? Et puis, il s'est refusé. Et puis, pendant 3 ans, je l'ai travaillé. Puis, un jour, il me dit, écoutez, je ne vais pas discuter avec vous. Vous avez besoin du terrain. Moi, je ne suis pas forcément attaché. Mais par contre, il faut mes droits de plantation. Donc, je suis prêt à vous rétrocéder le terrain pour une somme colossale, je peux vous dire. 175 000 francs, la moitié d'un hectare, ce qui est complètement fou. Mais en même temps, si on n'achetait pas ce terrain, on ne pouvait pas construire ce mur, ce mémorial. Et je lui dis, mais il faut vraiment le faire. Et puis, racheter l'autre partie. Et là, j'ai prié. Et en disant, bah, allons-y. Et cette année-là, ça a été une année extraordinaire sous forme de vente d'ouvrages, puisque je suis historien. Et ça m'a permis, mes droits d'auteur m'ont permis, je dirais presque au centime près, de racheter ces 2,5 hectares. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes propriétaires des 3 hectares qui entourent la chapelle. Alors ça, c'est l'achat.
Alors, Alain, je vous propose une petite halte parce que un auditeur nous demande d'expliquer en peu de mots, de rappeler en peu de mots ce qu'est le vœu de Louis XIII.
Oui.
Et donc là, je me tourne vers l'historien. Mais en même temps, je voudrais faire une farce à un de nos auditeurs, celui qui qui manifestait une certaine, un manque d'appréciation des bonnets carrés, comme il dit. Et je voudrais lui faire écouter quelque chose qui est chanté par des bonnets carrés. Ça s'appelle chanté, c'est très mal élevé, mais je voulais quand même vous donner un avant-goût de ce qu'est ce disque magnifique, qui n'est pas, contrairement à ce que dit cette mauvaise langue de Marquis, le cœur montjoie passé en 16 tours minutes, mais un enregistrement de Basso Profondo from Old Russia, les basses profondes de l'ancienne Russie, chant russe populaire et religieux, par The Orthodox Singers Male Choir, le chœur d'hommes chantre orthodoxe, Georgi Smirnov. Et j'aime beaucoup ce disque parce que c'est une splendeur, il y a des voix, vous avez entendu, c'est pas des voix de Gay Pride. Hein. Et il m'a été offert très gentiment par une auditrice qui est passée à la journée de Radio Courtoisie et qui m'a glissé ça en me disant, tenez, écoutez donc ça, vous ne le regretterez pas. Et c'est vrai que c'est une pure splendeur. Alors c'est un disque... c'est un disque... voyons voir. Alors, avec mes yeux, c'est tout à fait parfait. Harmonia Mundi, oui. Heureusement, c'est assez facile. Harmonia Mundi, RUS, donc russe, 28-81-50. Basse profonde de l'ancienne Russie. Très, très chaudement recommandé. Il y a notamment un chant qui s'appelle « Nous nous prosternons devant ta croix », qui est quelque chose de totalement bouleversant. Et je vous assure que quand on a entendu ça, on peut difficilement supporter les chansonnettes conciliaires. Retournons à la chapelle Basse-Mère. pour une toute petite, très brève précision sur le vœu de Louis XIII.
Alors, le vœu de Louis XIII, c'est un vœu très particulier, puisque Louis XIII ne pouvait pas avoir d'enfant pour des raisons que l'on connaît. Et il avait promis de consacrer à la Vierge une journée s'il avait un enfant, ce qui a donné naissance à Louis XIV, et c'est devenu le 15 août.
Dieu donné, Louis XIV, Dieu donné. Ouais. Voilà. Donc, et maintenant, puisque nous sommes à la chapelle, parlons peut-être de la suite des aventures des restaurateurs.
Alors, la suite, il fallait, bien entendu, pour accueillir un chantier, il fallait avoir un lieu de réception. Et je me suis adressé, bien entendu, à la mairie pour qu'ils nous prêtent une salle. Et nous n'avons jamais eu de réponse. C'est comme ça, mais je ne juge pas. Et je me suis rappelé que j'avais rencontré avec un de mes amis un monsieur qui résidait dans un château. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller le voir pour lui demander s'il accepterait d'accueillir 50 jeunes dans ses murs. Et je suis allé voir ce monsieur qui était un monsieur assez âgé. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Morinière, il n'était que locataire, hein, et je l'ai appris après. Est-ce que vous accepteriez de recevoir un groupe de 50 jeunes pour restaurer la chapelle Saint-Pierre aux Liens? Et là, je me souviendrai toute ma vie de son geste. Il a enlevé sa casquette, a mis son visage dans sa grosse main. C'est un boulanger, il a des mains énormes. Et il me dit, mais depuis le temps que je vous attendais. Et donc, nous nous sommes installés dans ce château qui est devenu un peu le nôtre avec l'autorisation du propriétaire. Chaque année, il nous accorde cette autorisation. Et nous avons comme ça un immense... Ce château brûlé à la Révolution, il a brûlé pendant 3 jours, un immense espace. Et pendant un mois, nous nous retrouvons ensemble. Et grâce à cet accueil, eh bien, on peut œuvrer. Alors tout ça, c'était la première année. Et puis la deuxième année, donc une fois qu'on avait démonté et remonté les murs, consolidé les structures supérieures, restait le problème de la charpente. Et là, le hasard a fait qu'une charpente, ça coûte très cher. Hein, outre le fait qu'il faille des poutres, il faille toutes les structures, il fallait aussi des ardoises. Et j'avais fait une annonce pour trouver un sponsor. Et un jour, je reçois une lettre d'un monsieur, je peux dire son nom, monsieur Verspiren, vous savez, les assurances oui. du Nord-Est, qui était d'ailleurs entre autres associé à Legrand, qui me dit, monsieur, j'ai entendu votre demande, je suis prêt à vous faire un prêt pour restaurer cette chapelle. Et je lui ai répondu immédiatement, monsieur, non, ça ne m'intéresse pas que vous me donniez que vous fassiez un prêt. Vraiment, merci. Et ce monsieur me téléphone en disant, mais attendez, c'est fabuleux ce que vous faites. Il avait 80 ans. Écoutez, moi, je suis prêt à financer votre charpente. Grosso modo, ça coûte 120 000 francs. Je vous donne cash 60 000 francs. Et vous m'invitez, une fois qu'elle est posée, et je vous paierai le solde. Vous imaginez ma stupeur. Donc, j'avais le montant de la somme, en fait, et je me suis dit, maintenant, il faut trouver les poutres. Et j'avais un de mes amis qui était un des responsables du groupe Pinot-Bois, et je l'ai sollicité pour qu'il me trouve, je voulais quelque chose de neuf, pour qu'il me trouve des grosses poutres. Il nous fallait 5 poutres de 6 mètres de long. Et pendant des mois, dans tout le groupe, ils ont cherché des poutres. Et 15 jours avant le deuxième chantier qui allait nous permettre de poser la charpente, il me dit, Rénal, j'ai trouvé les poutres, sauf que elles sont en pain. Et j'apprends ça un midi, je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire une chapelle brito-vendéenne avec des poutres en pain. Et je dis à ma femme, écoute, c'est pas logique tout ça, j'habite Rennes, à la chapelle Basse-Mère, c'est à 110 km, je descends à la chapelle Basse-Mère, je vais dans le cœur de la chapelle et je dis non. Et en même temps, je prie pour que nous ayons ces poutres, mais on n'a que 15 jours. Et donc, c'est ce que je fais, je prends ma voiture, je descends dans cette chapelle, Et je suis vendéen. Hein. Donc on a des rapports assez particuliers. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et là, je crie dans ce cœur au ciel parce que tout, il n'y avait pas de voûte, il n'y avait rien, en disant Seigneur, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas ne pas nous donner ces poutres. Et pendant que je criais à la fois ma colère et je le sollicitais, je suis plutôt marial, moi je sollicitais donc la Vierge, il s'est passé une scène hallucinante. Ma femme est une industrielle et la secrétaire de direction de l'entreprise, je dirais presque à la même minute, voit arriver dans son bureau le directeur de recherche de l'entreprise qui ne venait jamais dans son bureau, qui s'assied sur ce bureau, qui prend son téléphone et qui parle à une tierce personne en disant « Monsieur, les poutres que vous me proposez, elles ne me vont pas parce qu'elles sont trop grosses, trop lourdes et trop longues. Donc vraiment, merci, je n'en vais pas. » Et il pose son téléphone et cette secrétaire est membre de l'association et elle lui dit « Mais monsieur, les poutres c'est quoi ?» Il dit « J'ai 5 poutres. » Parce que je restaure des dépendances de château. J'ai 5 poutres et je les ai cherchées pendant un certain nombre de mois et elles ne me conviennent pas. Il dit, mais attendez, mais Rénal, lui, il est en train de chercher des poutres. Elle ne savait pas que j'étais en train de rouspéter. Et le soir, en arrivant à l'entreprise, cette secrétaire me dit, bah, écoute, Rénal, va donc voir le directeur de la recherche. Je crois qu'il a quelque chose pour toi. Je vais le voir. Il dit, oui, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez pour moi? Il me dit, ben, paraît-il que vous cherchez des poutres. J'ai moi-même cherché, j'en ai 5 à vous proposer. Et le lendemain matin, je suis arrivé chez le paysan, c'était un bâtiment du XVIe siècle qui s'était effondré. Et le gars ne savait pas du tout que faire des poutres, mais il avait besoin d'argent pour reconstruire son bâtiment en moderne. Il cherchait à les vendre, lui il voulait les acheter, il n'a pas voulu. Puis en fait, à 8h05, je lui ai tapé dans la main, ça s'est passé comme ça. Et j'avais les poutres. Mais nous avions les poutres, mais nous n'avions pas l'entreprise pour les poutres. On avait bien cette entreprise Pinault qui avait été retenue et qui avait ses 5 poutres de pain. Et il fallait, et c'était autre chose, quoi. Et donc j'ai appelé cette entreprise très timide. Le camp, c'était 15 jours plus tard, en lui disant, voilà, monsieur. On vous a sollicité pour la charpente, vous nous avez trouvé des poutres de pain, cela ne nous intéresse pas. Par contre, j'ai trouvé 5 poutres de chêne à tel endroit. Il dit, ah oui, je connais, c'est à 2 kilomètres de chez moi. Je connaissais pas l'entreprise, hein. À 2 kilomètres de chez moi. Oui, mais j'ai un petit problème, c'est que il me faudrait cette charpente pour dans 15 jours. Et là, il me dit, mais bien sûr. Parce que vous sauvez la société, parce que nous sommes au chômage technique. Depuis, nous allons être au chômage technique demain, on n'a plus de travail. Et 15 jours plus tard, on a réceptionné cette charpente. Évidemment, les gars de la chapelle étaient bien d'admiration parce qu'ils se sont dit, Rena, c'est du génie. Et vraiment, tout est synchro.
Il y avait un assistant sérieux.
Pas du tout. Tout s'est fait par hasard, entre guillemets. Et c'est ainsi qu'on a pu monter cette voûte, cette toiture, qui s'est auto-financée par l'intermédiaire de Michel Verspiren, qui malheureusement est décédé depuis, vous savez, c'est celui qui a écrit sur la télévision,
bien sûr, je
etc., et qui est un homme vraiment extraordinaire. Et donc, comment dire, voilà, c'est une des nombreuses histoires. Les outils, c'est la même chose. Nous n'avions pas d'outils, vous savez, alimenter en outils un groupe de 50, c'est colossal financièrement, hein. C'est 5 brouettes, c'est 10 pioches, c'est 20 pelles, etc. Et là, j'ai une de mes amies, lorsque je parle au projet, me dit, écoute, moi j'ai telle somme d'argent, je te la donne pour les outils, et je ne plaisante pas, au centime près, c'est exactement le coût qui est de l'achat. Et il s'est passé comme ça un certain nombre de scènes. Alors, vous vouliez que je vous raconte l'histoire du fusil de l'abbé Robin.
Ça, c'est une très très belle histoire.
Alors, elle est un peu longue, mais elle est vraiment merveilleuse. Lorsque j'avais fait l'étude sur la chapelle Basse-Mère, Le prêtre réfractaire de la chapelle Basse-Mer, qui était natif de la chapelle Basse-Mer, qui était le recteur Pierre-Marie Robin, avait été protégé et sauvé, entre autres par ma famille. Il s'était déguisé en jardinier et était passé comme ça à travers la, comme on dit, j'utilise le langage du XVIIIe siècle, la soldatesque bleue. Et Louis XVIII, pour remercier cette famille, avait décidé de lui remettre un fusil qu'on appelle de récompense d'honneur. Et le prêtre était mort en 1805. Et donc on a remis solennellement ce fusil de récompense à son neveu qui s'appelait Bontemps. Et lorsque j'ai fait ma recherche sur la chapelle Basse-Mer, j'avais trouvé cette notification dans les archives. Puis j'avais essayé de trouver les héritiers. J'en avais trouvé quelques-uns qui n'avaient absolument jamais entendu parler de ce fusil. Et il y a 2 ans, il fallait prendre des décisions pour la chapelle. Alors, quand je prends des décisions sur la chapelle, je les prends jamais au hasard. Et je reviens toujours sur les lieux, je fais une prière. Et je demande au Seigneur et à la Vierge de m'assister, de me permettre de prendre la bonne décision. Et ce jour-là, il faisait particulièrement chaud, c'était au mois d'avril. Je n'avais pas la réponse que je sollicitais. Et je me suis dit, je vais aller dans le village natal de l'abbé Robin, je vais déambuler dans le village et peut-être que j'aurai cette réponse. Et je vais effectivement dans ce village, qui est le village de Beauchêne, et je vois la maison dite de l'abbé Robin qui était ouverte et faisait chaud. Et je vois assis dans la cuisine un monsieur d'un certain âge. Et je me suis dit, ben, je vais frapper à sa porte. L'histoire du fusil m'est revenue. Et puis je vais essayer de voir s'il connaît l'abbé Robin et s'il a entendu parler de ce fusil. Alors je frappe à la porte. Le monsieur se lève, je le vois se lever, venir vers moi. Et là, il s'est passé un échange absolument surprenant. Il n'a jamais demandé qui j'étais. Et je lui ai posé une question comme si c'était au présent. En lui demandant, mais est-ce que vous avez entendu parler de l'abbé Robin? Et le monsieur me regarde un peu surpris, il me dit, mais bien sûr, c'est mon arrière-grand-oncle. Comme si c'était du moment, naturel. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez entendu parler du fusil de l'abbé Robin? Il me dit, bien sûr, j'ai entendu parler du fusil de l'abbé Robin. Ce fusil qui a été remis à mon arrière-grand-père, qui était son neveu, Julien Bontemps, et qui était religieusement accroché sur le manteau de la cheminée, et malheureusement ce fusil a été vendu par mon frère. Et là, c'était la première fois que j'entendais parler de ce fusil, que quelqu'un pouvait me dire qu'il était là à un moment donné. Et je lui demande la référence de son frère et qu'il me donne en disant, ben, il vous dira pas plus que moi, puisque il l'a vendu, et vous le retrouverez pas. Alors j'appelle ce monsieur qui, effectivement, me dit qu'il ne l'a pas, qu'il a bien été cédé. Et puis voilà, c'est une histoire bouclée. Et la deuxième partie de l'histoire, c'était l'année dernière. J'ai un enfant qui a la caractéristique d'être sourdoué. C'est très difficile à gérer le sourdouement, comme on dit. Il est suivi par une psychologue à Nantes et il fallait négocier le passage de la 7e. Alors ça s'appelle pas la 7e, c'est un autre nom maintenant, et la 6e. Et donc, ma femme me dit, écoute, c'est assez compliqué pour moi, c'est trop compliqué. Va voir la psychologue à Nantes et puis tu vas voir comment il faut faire, quelle école il faut choisir, etc. Et puis, parallèlement, j'avais fait cette fameuse bande dessinée sur Napoléon III et la dame qui m'avait fait les couleurs ne me plaisait absolument pas. Les couleurs ne me plaisaient pas et j'avais refusé pour la première fois les couleurs de cette BD. Et cette dame me dit très simplement, je ne peux pas vous faire mieux parce que je n'ai pas les couleurs de ces costumes. Et je me souvenais que j'avais rencontré quelques années auparavant un spécialiste de l'uniforme du Second Empire. Et le hasard fait que ce monsieur habitait Nantes. Et donc là, c'était le mercredi, je prends mon téléphone et pendant 5 jours, j'ai essayé d'avoir ce monsieur et je ne l'ai jamais eu. Donc je vais déposer mon fils à Nantes, il était 5:30. Et je prends mon téléphone et j'appelle à ce numéro et le monsieur me dit, écoutez, oui effectivement j'ai le livre que vous me demandez, mais je ne peux pas vous recevoir. J'ai dit, écoutez, j'ai vraiment besoin de ce livre, j'arrive chez vous, j'en ai pas vraiment pour une minute. Il dit, oui, mais vraiment, c'est pour vous, une minute. Donc j'arrive chez lui, Alors, on se retrouve au bas de l'immeuble, il me donne le livre, et je lui tends le chèque, puis je lui dis, mais je suis désolé, mais j'ai besoin d'une facture. Dit, d'accord. On monte dans son appartement à Nantes, et là je tombe dans un appartement extraordinaire, bourré de vêtements du Second Empire. Et là je lui dis, mais est-ce que vous n'auriez pas des fusils, alors je fais un peu vite, des fusils de récompense, d'ici, bien sûr, je viens d'en acheter il y a quelques mois, mais ils sont de l'autre côté, j'ai vraiment pas le temps. Et donc je lui dis, mais si on fait vite, en une minute. Alors on traverse la rue, on remonte dans cet appartement, vieil appartement nantais, gigantesque, avec, comment dire, les lampes pissouses dans des caches jaunâtres, poussiéreux, etc. Et on se dirige vers le fond de l'appartement, et là il me tend deux fusils plus un sabre. Et tous les fusils d'honneur sont personnalisés. Alors j'étais un peu fatigué parce que j'avais peu dormi, et Julien, Bonchamp. Alors moi j'ai une mémoire assez spéciale, je flash et je décante ensuite. Et je descends de l'escalier, je fais vite, et au fur et à mesure que je descends, je dis, mais non, c'est pas Julien Bonchamp que j'ai lu, c'est Julien Bonchamp, et Bontemps, et ça me dit quelque chose. Je vais chercher mon fils et j'appelle ma femme en disant, je viens de trouver le fusil de la Bourdin. Ma femme dit, arrête, c'est pas possible. Je rentre à la maison, et puis je cherche dans mes archives, et puis je ne trouve pas le nom du neveu de l'abbé Robin. Et à 1h du matin, je me réveille, et je me dis, mais tiens, j'ai le cadastre de 1808, et je vais voir le nom du propriétaire. Et donc à 1h, je vais dans mon bureau, je retrouve le cadastre, et je vois Julien Bontemps. Je venais de redécouvrir le fusil de l'abbé Robin. Et quelques jours plus tard, je vais voir le monsieur et je lui dis, ben voilà monsieur, je vous achète ce fusil. Et monsieur me dit, écoutez, c'est une histoire invraisemblable parce que ce fusil n'était pas à vendre. Je fais vite. Vous arrivez comme ça, vous me demandez si j'ai un fusil d'honneur, j'en ai un. Vous me demandez ce que ça coûte, je vous dis la somme. Vous me dites, mais je suis intéressé. Et je vous ai dit la somme, je dis d'accord. Puis vous me dites, je n'avais pas d'argent. Je vous le prends et vous me laissez 6 mois pour le payer. Et c'est ainsi que j'ai pu racheter sur 6 mois le fusil de l'abbé Robin.
Merci, on a c'est cher pour cette belle histoire de la chapelle Basse-Mère et autres lieux découverts à marée basse. On se revoit bientôt, j'espère, pour d'autres aventures.
Un appel
non,
rapide.
On fera
Maréchal,
ça tout à l'heure. Maréchal, nous voilà.
Voilà,
non.
Je voudrais qu'il me renvoie le fax, c'est tout.
Pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 juin 2004 de 18h à 21h, en différé jeudi 1er juillet de 2h à 5h dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bonsoir chers auditeurs, très heureux de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe. Autour de la table, comme à chaque occasion, Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Lierd, rédacteur en chef de Relève Politique, Patrick PL, journaliste, et votre serviteur Philippe Christel. Nous allons comme d'habitude faire notre émission en trois parties. Une première demi-heure consacrée à des commentaires sur l'actualité française et européenne, et Dieu sait s'il s'est passé des choses depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés sur les ondes de Radio Courtoisie. Une seconde demi-heure qui sera consacrée à notre invité, et une troisième demi-heure, comme à l'accoutumée, davantage consacrée à l'actualité culturelle française et européenne. Alors, on parlait d'actualité, il s'est passé effectivement beaucoup de choses depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Il y a eu évidemment les élections européennes dans 25 pays, nous en reparlerons, mais l'actualité la plus brûlante, et celle sur laquelle je voudrais commencer et faire réagir nos amis, c'est la conclusion du sommet de l'Alliance Atlantique, sommet de l'OTAN à Istanbul, en présence donc de l'ensemble, de la grande majorité des chefs d'État européens, et bien sûr, du grand frère George Bush. Alors, vous avez vu comment ce sommet s'est déroulé. Dans un premier temps, George Bush est très clairement revenu pour insister sur la nécessité pour l'Union européenne d'inclure au plus vite la Turquie. Le soir même, Jacques Chirac, dans un point de presse, tout en réaffirmant son souhait, lui aussi, de voir la Turquie en Europe, a vertement tancé George Bush en lui disant « Nous sommes des amis, pas des serviteurs. Ce n'est pas le sujet du président américain de parler des problématiques européenne. » Et puis dès le lendemain, Bush recommençait devant les caméras sans avoir entendu évidemment ni obtempéré à la réaction de Chirac. Alors immédiatement là, de ce sommet, on peut tirer au moins trois conséquences. La première conséquence, et j'aimerais que nos amis réagissent là-dessus, la première conséquence, c'est que pour ceux qui peut-être par naïveté ou qui sont encore dans les émotions de la commémoration de 1944, pour ceux qui l'auraient oublié, les États-Unis aujourd'hui confirment qu'ils sont absolument déterminés à polluer l'Europe et à empêcher qu'une Europe véritablement européenne se crée, en voulant immiscer le plus rapidement possible le poison turc dans l'organisation européenne. Deuxième conséquence, c'est que devant l'impudence avérée du président américain, il ne s'est pas trouvé un chef d'État pour dire « Mais enfin, de quoi vous mêlez-vous? Nous avons une autre idée de l'Europe et laissez-nous nous organiser nous-mêmes. » Ou plutôt, si il ne s'en est trouvé qu'un seul, c'est Jacques Chirac, lequel, on le sait, est pourtant un partisan de l'entrée de la Turquie en Europe. Ce qui prouve à la fois que les chefs d'État européens n'ont pas envie d'intervenir sur le sujet, alors que Chirac, lui, au moins, défend une certaine vision, même s'il est seul, de l'indépendance européenne. Et donc, il n'y a pas non plus, il y a du bon dans cette réaction chiracienne. Et puis, troisièmement, c'est que l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie, comme l'élargissement de l'OTAN à des pays comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, consiste pour les États-Unis à pousser un élargissement de l'Alliance pour encercler et pour contenir le plus rapidement possible la puissance russe qui est en cours de reconstruction, et pour définitivement installer des logiques militaires dans l'Asie centrale, c'est-à-dire au débouché des approvisionnements énergétiques à la fois de l'Europe et de la Chine. Donc trois leçons. Premièrement, l'Amérique continue à tabler et à essayer d'affaiblir l'Europe. Deuxièmement, il ne se trouve en Europe personne pour réagir, sauf Jacques Chirac, dont nous connaissons un certain nombre de faiblesses intrinsèques. Et troisièmement, la stratégie américaine confirme sa volonté d'affaiblir l'Europe et d'encercler la puissance émergente russe. Cela devrait faire réfléchir tous ceux qui pensent que l'Amérique veut notre bien et pousser à l'urgence d'une coopération entre ces puissances qui sont aujourd'hui visées par l'Amérique, à savoir l'Europe et la Russie. Alors peut-être Grégoire Gambier, Xavier Van Lierd, votre réaction sur le bilan que vous faites des conclusions de ce sommet. Oui, merci. Ça va pas vous surprendre. Je partagerai pas une fois encore votre enthousiasme à l'égard de Jacques Chirac, parce que effectivement, il a mis en scène une opposition à George Bush. Enfin, je dis mise en scène donc avec les relais médiatiques classiques, donc en coulisses, en expliquant aux journalistes qu'il était vraiment pas content, qu'il l'avait fait savoir, etc. Mais vous avez bien souligné le fait qu'il il avait expliqué, soi-disant, à George Bush qu'il n'avait pas plus à s'occuper de la Turquie que la France du Mexique, si ce n'est que c'était bien pour réaffirmer que la Turquie avait vocation à intégrer l'Union européenne et tutti quanti. Donc sur cet aspect, comme sur l'aspect plus militaire, puisqu'il s'agissait bien d'un sommet de l'OTAN, Chirac aussi s'est félicité que ce soit un général français qui s'apparaisse à prendre le commandement de la force de l'OTAN au Kosovo, et que ce soit aussi l'Eurocorps qui prenne en août la tête de la force de maintien de la paix à Kaboul. Donc dans ces deux théâtres d'opération, là aussi la voix de la France et de l'Europe, en dehors des de l'animation médiatique, est dangereusement absente, puisque au Kosovo comme en Afghanistan, ce sont bien des opérations voulues et organisées par les Américains dans une stratégie de containment de la puissance russe ou slavo-russe, et nous ne faisons que faire ce que les Américains souhaitent faire, mais simplement ils préfèrent que ce soit des alliés, comme ils disent, c'est-à-dire des harkis plutôt que leurs boys qui sont trop précieux. Donc dans un cas comme dans l'autre, la Turquie et les théâtres d'opération où l'OTAN serait amené à se déployer, je ne partage pas totalement cette vision un peu souveraine, cette grandeur passée de la France qui dans les couloirs feutrés des sommets internationaux nous rappelle sa grandeur, mais sa grandeur concrètement, elle a bel et bien disparu.
Et vous partagez donc le constat sur les menaces ?
Les menaces.
C'est-à-dire affaiblissement de l'Europe, encerclement, containment, ou plutôt, je ne sais pas comment on dit en français, contention de la puissance russe émergente.
Bah, oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je disais avec l'Eurocorps en Afghanistan. En soi, ça ne peut être que mieux que ce soit peut-être des Européens, a fortiori des Français, qui prennent le commandement des troupes au Kosovo et en Afghanistan, parce que nous avons une approche un peu différente. Mais il faut que ce soit bien sur une logique, si ce n'est d'exfiltration de ses forces, au moins de repositionnement diplomatique par rapport à la puissance américaine qui avait décidé de ses interventions.
Xavier Van Lierde, que vous inspire quant à vous les résultats d'Istanbul ?
Mais écoutez, ce qui me frappe, c'est quand même la capacité des Américains à agir selon des fondamentaux géopolitiques. C'est-à-dire ce que l'on constate, c'est que de Zbigniew Brzezinski jusqu'à George Bush, donc de Carter jusqu'à George Bush, l'objectif de l'Amérique est toujours le même, empêcher l'émergence d'une grande puissance continentale, faire en sorte qu'elle ne soit pas cohérente et qu'elle ne puisse pas peser sur les affaires du monde, ni même d'ailleurs rester maître chez elle sur son aire continentale. Avec le plus de recul, c'est cela qu'on peut constater. L'objectif des Américains en faisant entrer de la Turquie, bon, bien sûr, non seulement c'est quand même un allié des États-Unis, un allié d'alliés des États-Unis, la Turquie, mais c'est aussi un État qui va empêcher, voilà, la construction d'une Europe puissante. C'est ça l'objectif majeur. Les États-Unis ne veulent pas seulement d'une Europe atlantiste, ils veulent d'une Europe impuissante. Ils ne veulent pas seulement un pôle euro-atlantique fait de deux puissances allant dans la même direction, ce qui en somme, pour ma part, je considérerais déjà comme un recul de l'Europe, mais ils veulent avoir le leadership absolu sur ce monde atlantique, pour peu qu'il existe.
Oui, Patrick Péel.
Oui, c'était simplement pour revenir justement à ce sommet de l'OTAN. Les Américains ont quand même, comme au G8, ont accouché d'une souris. Il faudrait quand même pas voir la France dans cette histoire simplement isolée. Deux fois de suite, l'Amérique sent une grande victoire diplomatique derrière ces grands sommets, et à chaque fois la France la contredit et fait quelques petites concessions. L'OTAN n'ira pas en Irak. Là-dessus, je crois que les Américains ont été obligés, et c'est pour ça que je pense que George Bush a changé de sujet, a voulu agacer Jacques Chirac avec l'histoire de la Turquie, mais sur l'Irak, il a diplomatiquement perdu.
Oui, peut-être qu'on a perdu, que George Bush a perdu à Istanbul, mais dans le même temps, les hiérarques de l'Union européenne sont l'atlantiste portugais, président de la Commission, Javier Solana, ancien secrétaire général de l'OTAN, comme responsable, comme ministre des Affaires étrangères. Et donc, peut-être que sur le tapis vert, les choses ont été perdues à Istanbul, mais en tout cas, dans les postes de commande, les atlantistes ont gagné.
Bah, tout à fait, parce que je ne partage pas la vision de Patrick Puel, parce qu'il y a une politique américaine que Xavier Van Lierne a bien, très justement rappelé à l'instant, qui est une vraie politique, une vraie géopolitique, que l'Europe elle-même devrait pouvoir s'en inspirer pour bâtir sa propre géopolitique. Mais le fait que cette politique voulue par Washington soit conduite ensuite par des Américains ou par des Européens qui conduisent la politique américaine, c'est quand même une vraie victoire américaine. Et c'est ça, ce qui compte quand même in fine, ce sont les actes. Et les actes, ils restent quand même favorables, très largement favorables aux Américains, et ce malgré leur échec monumental en Irak. Alors que là, il y avait quand même une occasion de déstabilisation, et enfin en tout cas d'un meilleur équilibre des pouvoirs entre une Europe continentale et les États-Unis. Or, une fois de plus, l'Europe a laissé passer les plats. Il faudra attendre une nouvelle erreur américaine, mais gageons que ça ne serait tardé.
Alors, on a parlé de ce que pensent, ou le peu que pensent les chefs d'État en Europe des États-Unis. Alors, qu'en pensent les pays? Qu'en pensent les gens dans la rue?
Oui, c'est l'autre enseignement que je pense qu'on peut avoir sur cette sortie de Chirac, quand même assez virulente, et au-delà d'ailleurs de ses contradictions internes. Il intervient contre Bush, vous l'avez dit, parce que celui-ci est favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce qui est frappant, c'est la rudesse de ton de Chirac à l'égard de George Bush. Je pense qu'il y a quelques mois, quelques années encore, une telle rudesse de ton était inimaginable, et cela traduit une modification profonde de la perception de l'opinion publique des différents pays et de l'opinion publique mondiale à l'égard des États-Unis. La modification de cette perception, on peut d'ailleurs la mesurer à travers une série de sondages qui ont eu lieu. Le premier a eu lieu au Canada. C'est un sondage qui portait sur un panel de 500 jeunes Canadiens de 14 à 18 ans. On leur demandait leurs sentiments à l'égard des États-Unis, et à un peu plus de 40%, ils ont répondu qu'ils considéraient les États-Unis comme une force du mal, en anglo-canadien dans le texte, « an evil force ». On voit donc que le vocabulaire Quaker américain fait de bien et de mal, de gentil et de méchant, de très gentil et de très méchant, se retourne contre ses concepteurs et leur revient dans la figure comme un boomerang. Alors bien entendu, vous pourrez me dire, quand on en est à se délecter d'un sondage qui porte sur 500 jeunes canadiens de 14 à 18 ans, c'est que les carottes sont cuites. Peut-être, sauf que ce n'est pas si anodin que ça, que des jeunes de 14 à 18 ans, si perméables à la culture américaine, qui certainement vont voir des films américains, mangent des fast-food, portent des Nike, etc., puissent avoir ces sentiments-là à travers les États-Unis, ça marque très clairement une limite de leur influence et de leur capacité à modeler les esprits. Bon, il y a un autre élément qui nous permet de voir que ça s'inscrit dans une donnée de fond, c'est un autre sondage qui, celui-là, est d'une ampleur considérable. C'est un sondage non seulement qui a été fait par un institut de sondage américain, qui porte sur 19 000 personnes réparties dans 19 pays, eux-mêmes répartis sur tous les continents de la planète, et on leur demandait à leur tour quels étaient leurs sentiments sur la politique américaine. Et aux surprises pour les Américains ou aux confirmations pour nous, il apparaît que 55% des gens interrogés, donc une sorte d'opinion publique mondiale pour peu qu'elle existe, considèrent que les Américains ont une influence négative sur les affaires du monde. On peut poursuivre l'examen de ce sondage en constatant qu'à l'inverse, près de 50% des personnes interrogées considèrent que l'Europe a une influence positive sur les affaires du monde. Et quand on dit près de 50%, ça inclut les Américains. Tant et si bien que si on retranche les Américains de ce chiffre, eh bien, il y a une majorité de l'opinion publique, États-Unis exclus, qui considère que l'Europe a une influence positive sur le monde. Enfin,
Ce serait intéressant de savoir quelle est l'influence de l'Europe.
Oui, comme quoi c'est l'inaction qui est positive.
J'allais y venir, ne venez pas à la conclusion. Il y a un dernier sondage.
Nous sommes pressés,
un dernier sondage, beaucoup plus franco-français ou européen en tout cas, qui mesurait donc le sentiment des Français vis-à-vis de l'Amérique. Les résultats sont absolument dévastateurs pour les États-Unis. En effet, pour 82% des Français interrogés, c'est un sondage qui a été fait lors des commémorations du 6 juin dernier. Pour 82% des Français donc interrogés, les Allemands sont devenus les alliés les plus sûrs avant les Britanniques et avant les Américains. Les Britanniques sont des alliés sûrs pour 65% des Français. Les Américains n'arrivent qu'en troisième position avec 55%. Et il faut se souvenir qu'en 1994, il y a donc à peine 10 ans, un sondage analogue plaçait les Américains en tête avec 70% devant les Allemands et les Britanniques. Il y a donc un retournement complet des opinions publiques. Alors, c'est vrai que certainement la puissance et d'autant plus l'hyperpuissance par nature catalyse des oppositions et prête le flanc à des critiques et à un agacement. C'est naturel, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte et qui a certainement été accéléré par la façon dont les Américains mettent en œuvre leur puissance depuis l'arrivée de George Bush au pouvoir. On pourrait élargir un petit peu le débat, mais j'ai peut-être déjà été un petit peu long sur les notions de hard power et de soft power. Aujourd'hui, les Américains ont une prédominance totale dans le hard power. Ils ont la plus grande armée du monde, ils ont les plus gros biceps, ils ont tout plus gros que les autres, mais ils sont totalement dépourvus de charme et de séduction. Et pour charmer et séduire l'opinion publique mondiale, eh bien, il ne faut pas seulement avoir les plus gros équipements, il faut aussi un petit peu d'intelligence et de charme. Et c'est peut-être cette French touch qui va nous permettre de l'emporter face à ce colosse.
C'est Evelyne, puisque vous parlez de hard power, de soft power, de French touch, je vais donc rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie,
oui, c'est le moment,
et que vous êtes disqualifié aux oreilles de nos auditeurs qui sont scandalisés. Nous recevons une brouette de messages à l'instant même, et donc je vais vous punir et passer la parole à Grégoire Gambier qui va s'exprimer en français pour nous commenter les résultats des élections européennes.
En France en plus.
Enfin, très.
Oui, majoritairement en France. Oui, alors on a dit beaucoup de choses sur ces élections européennes et maintenant on a un petit peu de recul et c'est peut-être pas la peine de revenir trop longtemps dessus. Moi, je retiendrai simplement un seul chiffre, enfin un seul fait, c'est l'effritement, pour ne pas dire l'effondrement de l'ensemble des candidats ou des listes souveraino-jacobines, si on met ensemble Villiers, Pasqua, Le Pen, Maigret et accessoirement les chasseurs, même si la démarche est un peu différente. Je vous rappellerai que donc ces différentes listes regroupaient le tiers des électeurs en 1999 et ils n'atteignent même plus les 20% en 2004. Et c'était par rapport à 1994, la chute est encore plus importante. Alors je ne parle que de pourcentage, puisque compte tenu du taux de participation, ce serait encore plus cruel de parler de nombre de voix, où là, ce n'est plus de l'effondrement, c'est cataclysmique.
Mais là, ça devient cruel pour tout le monde.
Ça devient cruel pour tout le monde, mais j'y viens. Donc, en parallèle, donc je mettrai en parallèle cette vraie donnée électorale avec deux autres résultats, qui sont les résultats des listes, au contraire, donc populistes anti-européennes partout ailleurs en Europe, qui sont plutôt en progression, que l'on songe à l'Angleterre ou à l'autre, puisque c'est bien un populiste anti-européen qui a damé le pion du FPE. Donc il y a quand même un cas français en Europe, encore une exception française. Et le deuxième parallèle avec les résultats de la liste Euro-Palestine, alors qui est évidemment, nous sommes dans un nombre d'électeurs un peu moins important, mais on peut souligner quand même les scores très importants de cette première liste réellement communautariste en banlieue parisienne, avec de nombreuses villes où elle a dépassé les 10% des suffrages.
Donc, l'UMP.
Et dépasse l'UMP dans certains secteurs, à la surprise des observateurs politiques. Donc le résultat, pour le moins décevant, des listes qu'on va qualifier de souverainistes par rapport à leurs homologues européennes, d'une part, et par rapport à d'autres significations politiques, notamment donc en banlieue, avec la liste Euro-Palestine. Alors, je conclurai simplement en disant que, enfin, sur une note plutôt optimiste, puisque si le souverainisme, qui n'est malgré tout que la prolongation strictement électorale de l'idéologie jacobine et républicaniste, s'effondre aussi rapidement en France, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est bien de France qu'est partie cette idéologie, et c'est plutôt de bon augure pour le XXIe siècle. Il y a un nationalisme à réinventer, et celui-là doit être européen.
Xavier Van Lierde.
Oui, permettez-moi de ne pas partager votre enthousiasme.
Je peux mesurer.
Grégoire, mais alors que l'on vient de constater que mécaniquement, dans les institutions européennes, les non-atlantistes, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, sont devenus minoritaires, je ne sais pas s'il faut se féliciter.
Je ne suis pas félicité de voir, se contenter de constater une tendance historique.
De nouvelles de bon augure.
Oui, si on veut bien.
Je ne pense pas que ce soit une nouvelle de bon augure que de constater que y compris dans l'opinion publique et pas seulement au sein des institutions européennes, les moyens qui permettent à la France de tenir le discours qu'elle a tenu à Istanbul ce week-end sont en train de s'évanouir.
Mais
je suis navré, mais la grande Europe continentale que vous appelez de vos voeux, je le sais, Grégoire, ne passera pas par les grands mécanos institutionnels qui sont en train de nous paralyser comme les fils de soie pouvaient paralyser Gulliver. Il viendra des capitales et des États souverains, moteurs en dehors de ces constructions qui s'enlisent et qui sont faites.
Mais nous sommes totalement d'accord, et c'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a bien, la bonne nouvelle, c'est que la France dit enfin, il était temps, adieu au 19e siècle. Et c'est une bonne nouvelle, et pour la France, et pour l'Europe.
On pourrait d'ailleurs se demander si la perte d'influence et les échecs de ce bloc souverainiste que vous avez dépeint n'est pas lié au fait que leur projet politique est essentiellement une caricature et une critique de la bureaucratie bruxelloise, oui, et qu'elle n'est pas complétée ni augmentée de la formulation d'un projet positif européen et donc qui n'attire personne.
Ben oui, c'est la condamnation uniquement du projet européen avec toutes les tares qu'on lui connaît.
Et je crois que c'est tout le paradoxe, c'est que les européistes en France tiennent un discours qui devrait s'articuler avec la puissance européenne et l'émergence d'une puissance. Or, dans les faits, c'est l'inverse. Et de même, les souverainistes qui pourtant apportent les instruments qui devraient permettre cette puissance, eh bien, sont sur le précaré et ont des discours parfaitement étriqués.
Ah oui, c'est l'échec d'un discours.
Là aussi, la bonne nouvelle. On joue à front renversé, c'est navrant.
Et alors, peut-être, hypothèse de salut pour ces forces-là, puisqu'à chaque élection européenne se pose la question, les nationaux, souverainistes, identitaires, va savoir comment on peut les appeler, allons savoir comment on peut les appeler, auront-ils un groupe, comment va-t-il se former, toutes les conjectures sont possibles, puisque le Vlaams Blok est toujours présent, le FPE a envoyé comme député européen Andreas Mölzer, qui était à l'origine en 97, me semble-t-il, d'un rapprochement des droites européennes autour du Vlaams Blok, du FPE, d'une fraction de la CSU allemande, et le partenaire français qu'il avait choisi était à l'époque le MNR de Bruno Maigret, pour éviter d'avoir...
C'était en novembre 2001, puisque je crois qu'en 1997, tout ceci était
oui,
dans les...
Oui, effectivement, oui, forcément. Donc c'était en novembre 2001, merci de la précision. Donc,
la banlieue de Vienne, c'était une très belle réunion, n'est-ce
Absolument.
Pas
Absolument. Toute la question est de savoir, puisqu'aujourd'hui le partenaire français s'appelle le Front National, puisqu'il n'en reste plus que celui-là, est-ce qu'un tel groupe sera possible? Est-ce que les vieux antagonisme entre les divas pourront s'effacer? Pour l'instant, personne ne le sait. Il y a fort à parier qu'il y a aussi un grand chantier de fédérer et de regrouper tous ces élus, soit souverainistes, soit populistes, soit anti-européens, qui ont été notamment élus dans les anciens pays de l'Est. Et j'espère que les nouveaux députés européens auront un petit peu de vision, un petit peu de sagesse, et mettront au dernier plan les prérogatives des vieilles divas fatiguées pour arriver à réunir et à construire quelque chose de cohérent.
Oui, enfin, si c'est uniquement du constructivisme institutionnel, au sens où Xavier Van Lierde l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un groupe parlementaire avec des moyens financiers, un peu le groupe des mécontents qui sont d'accord sur à peu près rien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Une fois de plus, ce type de coalition politique, qui peut envoyer un signal fort aux opinions des différentes nations européennes, un tel groupe politique n'a sa justification que sur un projet politique. politique et une vision de l'Europe. Or, une fois de plus, la plupart des élus sur ces listes sont totalement dénués de vision européenne, sont complètement à côté de la plaque, et heureusement, et ça je m'en félicite, les électeurs ont désavoué ce type de positionnement uniquement sur de la crispation.
On m'a dit qu'au sein du groupe FN, c'était Lydia Schoenardi qui allait reprendre
la présidence du groupe européen.
Non, mais qu'elle est en charge de ce dossier.
Ah, donc ça va progresser.
En tout cas, puisque un de nos auditeurs nous pose la question, nous avions reçu lors de notre émission inaugurale des Chroniques de la Vieille Europe, Philippe Claeys, qui était député européen sortant du Vlaams Blok, un jeune député de 35 ans. Eh bien, il a été largement réélu, et puisque le Vlaams Blok a même augmenté son score et en voix et en nombre d'élus. Quelques commentaires rapides d'auditeurs avant de clore cette première demi-heure. Le président Bush et Blair font tout pour saborder l'Europe, nous écrit-on. Deuxième commentaire, les États-Unis ont parfaitement raison d'agir ainsi puisqu'ils s'occupent de leurs intérêts. Il ne faut pas les critiquer, c'est plutôt la faute aux Européens qui nous dirigent. Oui, effectivement, on est d'accord. Si tout le monde avait la même volonté de puissance que les États-Unis, on n'en serait peut-être pas là. Et puis enfin, les États-Unis n'ont pas besoin de l'OTAN en Irak parce que toutes les sociétés ont des armées de mercenaires qui seront à la botte des Américains de quelque nationalité qu'elles soient. On avait effectivement
des
sociétés guerre privée qui était en train de se mettre en place en Irak. Alors on voulait parler, Xavier Van Lier, de la défense et de l'industrie de défense européenne. Vous pouvez nous en parler en 1 minute 12.
En 1 minute 12, je vais me concentrer sur un seul accord. Alors, c'est l'accord intervenu lors d'un récent salon de l'industrie de défense entre EADS et Dassault, un accord qui s'appuie sur des éléments concrets puisqu'il s'agit de développer en commun deux programmes de ce qu'on appelle des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, mais cet accord peut avoir une ampleur bien plus importante car les programmes de drones constituent des bases technologiques sur lesquelles on peut ensuite construire de nombreux systèmes d'armes. Et au-delà des drones, ce qui est intéressant, c'est que ce rapprochement met fin non pas à la brouille, mais à l'éloignement entre ces deux géants aéronautiques français, disons, puisque ADS est quand même majoritairement franco-allemand, mais enfin principalement français en l'occurrence pour ce qui est de l'aéronautique. Donc met fin à cette brouille entre ces deux géants, et que ça va donc permettre de créer enfin un grand projet d'avion européen, continental, cohérent et qui soit concurrent de la seconde génération. Donc c'est pour développer l'avion qui va remplacer le Rafale, cohérent et capable donc de l'emporter sur de nombreux marchés européens face à ses concurrents américains. Et ça, c'est une excellente nouvelle, une nouvelle qui va bien au-delà d'un petit accord industriel. C'est l'ébauche d'une grande industrie de défense européenne et qui pourrait s'étendre d'ailleurs à terme, si cela fonctionne, à bien d'autres secteurs. On sait que Michel Alliot-Marie a confirmé récemment, ne cesse de confirmer, la volonté de créer une sorte d'EADS naval, c'est-à-dire de reprendre le modèle de cette fusion entre industrie de défense européenne, mais dans le domaine naval, et que ce dossier progresse très très bien. On pourrait citer encore d'autres éléments qui feront plaisir à notre invité qui va bientôt avoir la parole. C'est la volonté de Galileo de mettre en commun certains satellites avec le système russe de positionnement par satellite. On sent que donc les choses se mettent en place. Ça ne va jamais aussi vite.
Il y a un frémissement.
Jamais aussi vite qu'on le voudrait, ce qui suscite des sarcasmes de certaines personnes désobligeantes. Mais ça avance tout de même, et c'est une excellente nouvelle pour notre continent, pour les futures générations.
Merci pour cette conclusion de notre première demi-heure. Bien, nous reprenons pour cette seconde demi-heure des chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie, et nous accueillons notre invité est ce soir Henri de Grossouvre. Henri de Grossouvre, bonsoir. Vous avez un nom qui est connu, vous-même vous êtes connu des auditeurs de Radio Courtoisie, et dans les chroniques de la Vieille Europe, nous ne pouvions pas ne pas discuter avec vous d'un concept qui est plus qu'un concept pour vous, puisque c'est le titre de votre livre
Paris, Berlin, Moscou. Et alors je dis tout de suite aux auditeurs que ce livre a été écrit et édité en avril 2002, réédité en novembre 2002. Il y a même une édition italienne qui a paru en mai 2004. Et je mentionne la date d'avril 2002 parce que c'est vrai que depuis un certain temps, et nous les premiers, depuis l'axe diplomatique à l'ONU à l'occasion de l'entrée en guerre des États-Unis en Irak, on a vu se constituer un axe Paris-Berlin-Moscou et tout le monde, nous les premiers, en a abondamment glosé. Mais donc vous, vous avez écrit ça en avril 2002 et cet axe n'existait pas ou n'existait peut-être que dans les rêves les plus secrets de certains et rien n'était favorablement esquissé. Donc vous l'avez écrit, vous avez documenté cette vision Paris-Berlin-Moscou par un certain nombre de propositions, même très concrètes, de partenariats entre les trois capitales et leurs sphères d'influence. Et puis aujourd'hui, vous créez une association Paris-Berlin-Moscou. Alors cette association, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un comité de patronage absolument impressionnant. Je pense que vous en parlerez avec des correspondants dans toute l'Europe. Et donc vous avez appelé ça des délégués régionaux. Donc puisque les pays d'Europe sont donc les régions de la Grande Europe, c'est parfait. Alors l'association, c'est quoi ? C'est le rassemblement du fan club de ceux qui ont apprécié votre livre ?
C'est-à-dire que ce livre, comme vous venez de le dire, est paru presque un an avant que ce soit un sujet d'actualité, avant que dans l'actualité, les grands quotidiens de la presse européenne et même mondiale titrent Paris, Berlin, Moscou. Donc il y a eu une dynamique, j'ai bénéficié d'un effet d'un petit peu d'avance et de préscience. Et il y a eu une dynamique qui s'est créée autour de ce livre dans tous les partis, dans des milieux politiques que je ne soupçonnais pas, que je n'aurais pas soupçonné être des militants de la grande Europe. Et à partir de ce réseau qui s'est constitué dans toute l'Europe, j'ai tissé des liens, j'ai pris des contacts, j'ai rencontré les personnes. Ça va de la France jusqu'en Russie, en passant par l'Europe centrale, bien sûr, l'Europe du Sud. Et à partir de ces réseaux, je me suis dit j'ai senti un accueil très favorable dans des milieux différents, dans les milieux industriels, dans des milieux universitaires, dans des milieux politiques. Et j'ai voulu concrétiser ces énergies, les rassembler pour remonter cette association. Et qui a vocation à organiser des séminaires, à organiser des conférences, à sensibiliser l'opinion sur des questions stratégiques, toutes les questions stratégiques européennes.
Alors, évidemment, donc votre livre, j'ai oublié de le préciser, a été publié aux éditions L'Âge d'Homme. Et alors, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, la question que tout le monde se pose, c'est Paris-Berlin-Moscou. Est-ce que c'est un slogan? Est-ce qu'on peut construire une réalité tangible dessus? Est-ce que c'est concret? Est-ce qu'on peut densifier cet axe? Est-ce que ça avance? Quelles sont les forces qui tendent vers la création de cet axe ou qui freinent? Quel est le diagnostic que vous portez là-dessus?
Aujourd'hui, tout semble perdu. Tout semble perdu parce que la démographie européenne est catastrophique. Nous sommes largement en dessous du seuil de renouvellement des populations. Les pays sont impuissants, sont encore les seuls qui ont un mot à dire, mais sont impuissants seuls. Et l'Union européenne, quant à elle, l'Union à 15 était impuissante, selon le mot de Verhofstadt, et à 25, évidemment, le faible pouvoir de l'Union qui était en train de se constituer est dilué, et nous sommes devant une impasse. Même si la Constitution, le projet de traité constitutionnel passe, ce qui est très, très peu vraisemblable, les choses seront difficilement gérables à 25. Donc la seule alternative aujourd'hui, qui je crois est peut se réaliser, mais encore là c'est dans quelque chose de virtuel. Il y a des discussions, il y a des choses concrètes, mais il n'y a rien, enfin des discussions, des projets concrets, mais il n'y a rien qui n'a encore été concrétisé. Je pense que la seule alternative à l'impuissance de l'Europe à 15 et de l'Europe à 25, c'est un noyau dur européen. Ce noyau dur européen ne peut se faire que sur une seule base, c'est la base franco-allemande ouverte. Donc créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer, préparer l'opinion à une union franco-allemande, à une confédération, voire une fédération franco-allemande, qui sera ouverte aux pays qui naturellement sont de culture, de biculture franco-allemande. Je pense à tous les pays de l'ancienne Lotharingie qui sont entre la France et l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Voir l'Italie pour la partie nord, Donc c'est ouvert, évidemment, on va pas couper l'Italie en morceaux, mais cette base franco-allemande, ce noyau dur franco-allemand ouvert à la Belgique, au Luxembourg d'abord, ensuite à l'Italie, à l'Espagne, sera à même de créer l'Union, l'Europe politique, et de avancer, continuer à avancer sur les questions, parce que le temps presse. Nous sommes, il y a un problème démographique, il y a un problème technique, technologique, c'est-à-dire que toutes les technologies de souveraineté dont on a évoqué, là c'est une très bonne transition, ce qui a été fait tout à l'heure entre EADS et Dassault. Si nous ne mettons pas en place dans les domaines qui sont les domaines de la souveraineté européenne, des technologies de souveraineté, qui font actuellement la différence en faveur des États-Unis, c'est-à-dire le spatial, l'aéronautique, l'énergie. Si nous ne mettons pas en place au sein de ce noyau dur, donc sur une base franco-allemande, là il y a une question délicate, parce qu'il faut une défense européenne sans les Britanniques est très peu crédible. Et il est difficile d'intégrer les Britanniques dès le début, parce qu'évidemment, ils vont freiner le processus. Donc l'idée, c'est, par exemple, concrètement, de construire des avions de cinquième génération avec les Russes. EADS, qui est une société franco-allemande, par définition, puisque l'actionnariat majoritaire est franco-allemand, a des coopérations très avancées, très poussées avec la Russie. C'est une des sociétés aéronautiques et spatiales les plus implantées en Russie, a des projets depuis un certain temps dans le domaine spatial et dans le domaine aéronautique. Par exemple, construire un avion de cinquième génération. Et si nous construisons dans ce domaine-là un avion de cinquième génération avec les Russes, nous avons tout pour avoir le meilleur avion du monde. C'est-à-dire que les Russes ont les meilleures cellules au monde, et nous, Européens, la France, même dans ce qui concerne l'avionique, a la possibilité d'être totalement complémentaire de ce projet des cellules russes. Nous avons les moyens, sur une base franco-allemande avec les Russes, de créer le meilleur avion du monde de cinquième génération.
Voilà, et puis on peut rappeler également qu'il y a, dans le domaine spatial, très prochainement, les lancements russes vont pouvoir se faire depuis Kourou, ce qui est une première. Grégoire Gambier, vous aviez une question, un commentaire.
Oui, tout à fait, parce qu'avant peut-être d'en venir aux industries de défense et aux systèmes d'armes, qui sont des éléments essentiels, évidemment, de souveraineté. Donc si j'ai bien compris votre propos, votre vision, c'est bien une alliance de la vieille Europe carolingienne avec la Russie éternelle, si je résume grossièrement votre propos, mais j'ai pas bien suivi avec
la transition. C'est une tradition mystique de ma mise en œuvre opérationnelle et économique.
Voilà. Bon, mystique ou historique, c'est
vous avez raison. Si vous regardez la carte de l'opposition à la guerre en Irak, premièrement. Deuxièmement, la carte de l'Europe culturelle la plus avancée, ce qu'on appelle la vieille Europe, qui n'est rien d'autre que l'Europe européenne. Deuxièmement. Et troisièmement, l'Europe qui est économiquement et culturellement se différencie du reste de l'Europe centrale et de l'Europe du Sud, c'est l'Europe carolingienne.
Oui, tout à fait.
Donc il y a une continuité dans l'histoire, et c'est sur cette base-là que l'on peut construire quelque chose de, parce qu'il y a une vraie unité culturelle, et c'est sur cette base-là que l'on peut construire. Alors bien sûr, il faut rappeler les continuités historiques, mais ces continuités historiques ont des impacts très pratiques dans le domaine économique, dans le domaine des coopérations industrielles.
Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai bien compris. Enfin, il me semble avoir compris la base de cette alliance, la façon dont elle pouvait s'organiser de façon très pragmatique. Donc, puisque vous en parliez, ce que je n'ai pas bien saisi, c'est sur quelle vision géopolitique ou géostratégique alternative et crédible à la théocratie américaine pouvait-elle se fonder pour être séduisante, notamment à l'égard des autres peuples et nations d'Europe qui visiblement traînent pour l'instant des pieds.
L'avantage de la France, de l'Allemagne et de la Russie, c'est qu'elles ont chacune, sur une partie de l'Europe, un rôle de pivot, un rôle central et un rôle de pivot. La France sur l'Europe de l'Ouest, une partie de l'Europe du Sud. Enfin, la France, si vous regardez une carte, la France est en plein milieu de l'Europe de l'Ouest. La France est le seul pays qui participe à la fois de l'Europe du Nord, de l'Europe du Sud, et qui a une façade atlantique. C'est une sorte de résumé d'Europe. C'est une péninsule à elle toute seule qui est un résumé de l'Europe.
Oui, pas qu'au niveau géographique, au niveau ethnique et culturel aussi. Enfin, jusqu'à il y a 50 ans en tout cas.
Oui, tout à fait, au niveau à tout point de vue. C'est le centre de l'Europe occidentale. L'Allemagne, quant à elle, est au centre de la plus grande Europe. C'est pour ça que ses frontières sont mouvantes. Il n'y a pas les frontières de l'Est françaises étaient ont toujours été sujettes à caution, n'ont pas toujours été strictement établies. L'Allemagne étant au milieu et jouant ce rôle sur l'Europe centrale et à des frontières mouvantes et a un rôle de pivot sur une grande partie de l'Europe, sur toute l'Europe centrale. Et la Russie, bon, sur l'Europe orientale, bien sûr, mais en plus, et ce qui est un élément clé, la Russie est la porte vers la zone pacifique, qui est la seule zone aujourd'hui à la fois en développement démographique et économique, à l'exception du Japon. Le problème, jusqu'à peu de temps, si vous regardez les analyses des stratèges américains, leur problème au XXIe siècle, c'est pas l'Europe, ce sera peut-être l'Europe, c'est la Chine,
bien sûr.
Parce que c'est la zone qui est on entend en ce moment le délire des investissements et
raison de plus vu de Washington pour qu'il n'y ait pas d'Europe cohérente qui s'organise. C'est ce que nous disions en début d'émission à propos de la Turquie, pour être sûr de ne pas être gêné sur ce flanc-là et s'occuper du vrai problème qui sera la Chine.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que la Russie est un élément clé. Bon, c'est un élément clé, par exemple, pour l'énergie. Parce que la Chine a des réserves de pétrole très importantes, a été pendant quelques mois, en début 2003,
La Russie, hein.
La Russie, pardon, j'ai dit la Chine. Oui, je pensais la Russie. Vous avez entendu la Russie aussi.
Oui.
a été pendant quelques mois à une production de pétrole supérieure à celle de l'Arabie Saoudite, a des capacités, a des réserves de gaz les plus importantes du monde, et encore une fois, et cette ouverture vers la Chine. Vers le Pacifique, vers toute cette zone. Et toute cette zone, à partir du moment où vous avez ces trois pays qui ont une masse critique suffisamment importante pour créer des stratégies, des coopérations que l'on rendra irréversibles, c'est bien le but du jeu, à partir du moment où il y a des coopérations irréversibles qui lient de manière permanente ces pays, ça veut dire que l'ensemble du continent européen, voire eurasiatique, est lié. Et à partir de là, c'est gagné. Mmh. C'est-à-dire que le continent eurasiatique, à lui tout seul, a la majorité des réserves de matières premières, d'hydrocarbures, et de population, et de richesses culturelles du monde. Et ça, les Américains le savent. C'est la base de toutes les réflexions géopolitiques.
Oui, depuis le début, je vais peut-être m'appuyer sur un romancier pour parler à un géopolitologue, sur Vladimir Volkov, puisque on a l'impression, en vous écoutant et au fur et à mesure de plus en plus, qu'en fait la vraie puissance de l'axe Paris-Berlin-Moscou, surtout la puissance à venir à bien des égards, c'est la Russie. Donc est-ce que c'est bien une alliance à trois que vous concevez, ou à côté de l'Allemagne et de la France, qui à bien des égards sont des pays fatigués avec des peuples qui sont déjà des retraités de la grande histoire, en tout cas qui à bien des égards se conçoivent déjà comme ça, c'est la Russie avec ses immenses réserves, je parlais de Russie éternelle tout à l'heure, qui est l'avenir de l'Europe dans une génération.
Mais la situation de la Russie n'est pas si rose, parce que d'un point de vue démographique par exemple, le taux de natalité en Russie est largement inférieur au taux français et allemand.
Mais ça semble davantage réversible.
Les statistiques montrent que ça y est, ça remonte.
Non, c'est réversible. Ah. C'est réversible comment ? Avec des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut un développement économique, il faut une politique industrielle, il faut les moyens pour mettre en place une politique de soutien de la natalité, une politique familiale, ce sont des moyens financiers. C'est-à-dire soutenir les ménages qui sont à même d'avoir des enfants, soutenir leur revenu relatif. Donc, et ça, ce sont des politiques qui coûtent beaucoup d'argent. La Russie actuellement
n'a pas les moyens de mener cette politique, bien que le président Poutine ait plusieurs fois souligné l'importance du danger pour la Russie.
Oui, alors là, simplement sur la démographie, pour rebondir là-dessus, puisque l'Allemagne de l'Est, notamment, enfin à la grande époque, avait une politique de soutien, enfin une politique familiale très très volontariste et un taux de natalité très faible. Alors que enfin le strict rapport du revenu, même relatif, vous faites bien de dire relatif, est-il suffisant pour asseoir une vitalité démographique, ou n'est-ce pas aussi une conscience, une fierté retrouvée d'une communauté qui à un moment donné de l'histoire se dit bah oui c'est reparti, on a de nouveau un avenir, et c'est un peu ce qu'on est peut-être en train de voir en Russie
sur la démographie, puisque les dernières statistiques, je crois qu'on en a parlé à la dernière émission, montrent que la démographie russe, même si elle part de très loin, repart dans le bon sens. La question en fait de la Russie, c'est comment je fais pour garder un budget qui doit être en extension, qui aujourd'hui je suis servi par le cours du pétrole qui est exceptionnellement haut, comment je fais pour garder un équilibre budgétaire avec des moyens pour reconstruire un pays. Je rappelle que sous l'ère d'Eltsine, la Russie a perdu 40% de son PIB, et qu'aujourd'hui l'objectif de Poutine est de doubler le PIB de 2000 à 2010. Aujourd'hui, avec une tendance à 7% par an, la Russie y parvient, mais il n'est pas dit que dans les 5 à 6 années qui viennent, les prix du pétrole le permettent. Je voudrais lier notre discussion à une question d'une auditrice. Alors d'abord, parce que nous avons quand même des messages positifs, enfin un souffle d'air frais et des perspectives maintenant réjouissantes, bon courage. Mais également, j'admire votre optimisme, Moscou comme Berlin auront toujours les yeux de chimène pour les États-Unis. Alors est-ce que, d'après vous, Moscou et Berlin auront toujours les yeux de chimène pour les États-Unis ?
Il y a une révolution, et ça personne s'en est rendu compte en France, parce que les Français d'une manière générale s'intéressent peu aux questions de politique internationale, et encore moins à l'Allemagne. Il y a une révolution qui s'est produite en Allemagne, qui est irréversible. Il y a les livres les plus vendus pendant la guerre d'Irak dans les gares allemandes, c'était Stupid White Man de Michael Moore, et c'était
Der Brand, non ?
La traduction du livre de Todd sur les États-Unis. Oui. Bon, c'est
après l'Empire, hein.
Moi, j'habitais en Autriche à cette époque-là, et je suivais les informations allemandes quotidiennement. C'était, et je connais bien l'Allemagne, parce que j'ai fait une partie de mes études, et j'y retournais depuis régulièrement pour mon travail. On ne pouvait pas, surtout dans les milieux conservateurs, dans les milieux de droite, critiquer les États-Unis. C'était un tabou total. Ce tabou a sauté complètement. Complètement. Pendant toutes les... On voyait Scholl Latour, qui est un des spécialistes, un des seuls hommes qui soit sur une ligne gaullienne, pour aller très vite, grand continentale européenne, et qui est en même temps quelqu'un de franco-allemand, même, qui est un spécialiste du Proche-Orient, qui intervenait presque quotidiennement. Et c'était incroyable, c'était délirant. D'un point de vue, quand on connaît l'Allemagne d'avant les années 90, 92, c'était quelque chose de totalement délirant. Aujourd'hui, cette tendance, j'en discute régulièrement avec des spécialistes de l'Allemagne, cette tendance est, je crois, irréversible. Donc, c'est quelque chose, et l'Allemagne est de toute façon tellement liée à la Russie, d'une part économiquement, et d'autre part à la France, ce sont les deux pays avec lesquels l'Allemagne a le plus de liens économiques, que par la force des choses, et d'autre part, ce mouvement est quelque chose de très profond dans l'opinion publique, c'est quelque chose d'irréversible. Bon, il y a le problème Merkel. Merkel est une atlantiste, elle est vraisemblablement...
On rappelle pour nos auditeurs que Merkel est la patronne de la CDU allemande, le parti de droite, qui devrait très logiquement arriver au pouvoir aux élections législatives de 2006. Donc Angela Merkel serait-elle chancelière ? Dans ce cas-là, y a-t-il risque que la politique extérieure allemande change ?
Je crois que ça vaut le coup de... Bon, on connaît un peu plus la situation en France, on devrait être à peu près d'accord sur ce qui se passe en France. Je crois que ça vaut le coup de s'attarder un peu sur la situation allemande. Du côté SPD, il y a eu le retournement de la politique après la réélection de Schröder, qui semblait au départ, que j'ai cru moi-même au départ, plutôt démagogique. Je crois maintenant que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Quand on voit que des proches de Schröder, comme Günter Grass, le romancier, de gauche, disait dans un débat télévisé, la France, l'Allemagne avant la réunification n'était pas souveraine. Aujourd'hui, elle est souveraine et elle fait un très bon usage de sa souveraineté. dans le débat sur la crise irakienne. Quand vous voyez d'autre part des gens comme Egon Bahr, aussi social-démocrate, qui a un vrai discours d'Europe puissance, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve plus souvent qu'on ne le croit au sein des sociaux-démocrates allemands. Donc il y a quelque chose du point de vue du côté social-démocrate qui semble à peu près établi. Il y a aussi le point d'interrogation Fischer qui est vraisemblablement l'homme des Américains, même si c'est quelqu'un de très habile, de très adroit, qui sait jouer, ne pas prendre l'opinion publique à contre-courant. Mais bon, du point de vue du côté social-démocrate, du côté conservateur, la ligne majoritaire du parti semble être encore atlantiste. La ligne majoritaire menée par Merkel. Mais des gens comme Lammers, Karl Lammers, qui avait fait la proposition du noyau dur il y a quelques années, et comme Merz, même s'il est plus discret, est aussi sur cette ligne-là, ou comme Jürgen Rüttgers, qui a récemment, avec Karl Lammers, publié un papier, j'ai un article du Monde là devant les yeux, relatant ce papier de ces deux hommes de la CDU, deux personnalités de la CDU appellent de leur vœu une redéfinition des relations transatlantiques. Il y a un vrai débat au sein de la CDU qui fait que même si la CDU revient au pouvoir, il n'y aura pas une remise en cause totale des nouvelles orientations de l'Allemagne. Et qui donne un terrain favorable à cette qui est la seule possibilité, un rapprochement, une mise en commun des efforts dans les domaines stratégiques de politique étrangère et de défense entre la France et l'Allemagne, ouvert aux autres pays pour créer une dynamique politique en Europe.
Xavier Van Lien, une question, et après une question de Patrick Péel.
Oui, ma question porte sur l'Allemagne. On avait l'impression, peut-être à tort, que plus encore en Allemagne qu'en France, l'opposition et la fronde face aux États-Unis lors de la crise irakienne étaient fondées sur des arguments ou des sentiments justement un peu lénifiants. C'est-à-dire que cette montée en puissance de l'Europe, paradoxalement, en tout cas de la France et de l'Allemagne, était fondée dans le discours sur le refus de la puissance. C'était vrai en France, mais on avait le sentiment que c'était encore plus vrai en Allemagne. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une illusion?
Ça l'a été pendant longtemps. Il faut savoir que le pacifisme allemand, ce qui est quelque chose de très profond, qui n'est pas condamnable, bien au contraire, dans la société allemande, le pacifisme allemand est malgré tout très ambigu. Parce que le pacifisme allemand n'est pas le pacifisme français. Le pacifisme allemand, la gauche allemande, la politique allemande n'a rien à voir avec la politique française. Et vous trouvez chez les Verts, dans le pacifisme allemand, une sorte de revendication presque patriotique, pour utiliser des références françaises. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas d'abord juger en bloc comme on le jugerait en France, premièrement, et d'autre part, c'est en train de changer. Parce que le discours, au départ, il y a deux, trois ans, les sociaux-démocrates avaient du mal avec l'Europe puissance. Ils critiquaient, pour des raisons pacifistes, la politique étrangère des États-Unis, mais ils ne voulaient pas entendre parler d'Europe puissance. Maintenant, encore une fois, comme je prends l'exemple de ce livre qui a eu beaucoup d'écho en Allemagne, d'Egon Bahr, Der Deutsche Weg, Selbstverständlich und Normal, la voie allemande qui va de soi et qui est normale, est un signe fort. Qui est encore, bon, le titre est un peu trompeur, ça doit être un titre de l'éditeur, parce que ce livre parle plus de l'Europe que de l'Allemagne. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et je ne crois pas que...
On n'est pas sur la sortie de l'histoire que fut si Jacques Hagan ou qu'il évoquait.
Habermas et Derrida sont des patriotes européens, constitutionnalistes, d'une sortie de l'histoire européenne, du droit européen, une espèce de qui est un pas vers une sorte de démocratie mondiale. Oui, c'est ces gens-là. Mais ça, c'est la vieille génération. Sloterdijk, qui est aussi encore une fois un homme de gauche, dit des choses très intéressantes sur l'Europe, a une vision très lucide de la politique internationale et commence est de plus en plus constructif et positif sur les chances. Mais évidemment, encore une fois, nous sommes à la veille de la perte de la dernière bataille. Mais c'est justement, c'est comme Napoléon disait, que c'est au moment où la victoire est imminente, que le danger est le plus grand. Mais aujourd'hui, je pense, ce sont des, il y a un peu, pour des raisons un petit peu irrationnelles aussi, un peu intuitives, mais je me suis, en tout cas sur les grandes lignes, je me suis pas trompé jusqu'à présent. Je crois que tous les éléments sont en notre défaveur, mais que malgré tout, il y a quelque part une petite flamme qui peut s'appuyer sur des choses concrètes. Il y a des personnes convaincues et très actives dans des milieux politiques très variés qui convergent tous dans le même sens. Et je crois que cela va se faire, que je crois qu'il y aura, bon, il faut espérer que ce ne sera pas trop tard, mais qu'il y aura un noyau dur auquel vont s'agréger d'autres pays, auquel vraisemblablement la Grande-Bretagne s'agrégera aussi, en alliance avec la Russie, et qui va remettre totalement en cause les équilibres mondiaux.
Patrick Péal, une question.
Oui, en parlant de la Grande-Bretagne, justement, le problème, est-ce qu'on ne fait pas une erreur en voulant, parce que c'est vrai que la guerre d'Irak a amené cet axe, Paris-Berlin-Moscou, mais ne faudrait-il pas faire en même temps cet axe avec Londres? L'histoire nous a trop montré que l'Europe sans l'Angleterre était souvent un échec. On voit que même sur la position de l'Irak, Tony Blair a été, même dans son propre parti, mis en minorité, quelque part, qu'il y a un changement de mentalité de l'Angleterre vis-à-vis de l'Europe, et ce ne serait pas le moment, en fait, de s'allier sur un vrai axe, avec Londres en même temps, qui amènerait peut-être, vis-à-vis des Américains, une base beaucoup plus sérieuse que cet axe Paris-Berlin-Moscou.
Non, tout ce qui désarime Londres de Washington est bon à prendre.
Ouais. Une réponse en 20 secondes, s'il vous plaît.
Le moment est venu de discuter avec les Britanniques et de créer. Nous avons une agence atomique, une agence de défense européenne qui a été faite avec l'aval des Britanniques. Encore il y a un an, c'était totalement impensable. Donc sur des choses très ponctuelles, il y a des choses à faire, il y a des coopérations à établir avec les Britanniques. Mais les Britanniques ne seront jamais moteurs, comme peuvent l'être la France et l'Allemagne, pour l'Europe politique. Donc il faut sélectionner des thèmes ponctuels pour discuter. Il y a une remise en cause totale en Angleterre, même dans les milieux, et surtout et dans les milieux conservateurs, de Blair et de Bush. Les journaux et certains milieux stratégiques britanniques traitaient Blair du caniche de Bush. Donc s'il faut dire aux Anglais, est-ce que vous préférez être le caniche de Bush ou le lion de l'Europe?
Merci. Je voudrais terminer cette demi-heure avec Henri de Grossouvre sur Radio Courtoisie avec quelques messages. Tout d'abord, bravo à Henri de Grossouvre pour son livre et ses propos. Je suis moi-même, nous dit une auditrice, ainsi que beaucoup de mes amis, une fervente partisane de l'axe Paris-Berlin-Moscou. Un auditeur nous dit « Je vous écoute avec bonheur, enfin des jeunes, l'axe Paris-Berlin-Moscou doit devenir le grand projet de demain pour l'Europe » et vous avez eu un précurseur en la matière de Guillaume Fay qui a développé l'idée d'Eurosibérie en 1998.
Ouais.
Pas exactement la même chose, mais pourquoi pas. Un mot là-dessus ?
Un mot. Je voudrais attirer l'attention sur l'association et le site de l'association Paris-Berlin-Moscou.
Je voulais y revenir. Je termine un dernier message parce que il faut donner la voix à tous et puis c'est l'occasion de répondre à certains messages. Juste, un auditeur nous écrit « J'ai rarement entendu dire autant de bêtises en aussi peu de temps. Votre idéologie européiste est atterrante. Si c'est ça la jeunesse, vive la vieillesse. Vous avez une mentalité d'étranger. » Alors, juste pour dire à ce monsieur, et je pense qu'au moins les animateurs, parce que je ne vais pas engager notre invité, mais on est d'accord là-dessus. Nous on a 30 ans aujourd'hui, je voudrais dire à ce monsieur que sa génération nous a laissé aujourd'hui un pays qui est envahi, un pays qui est ruiné et un pays qui est culpabilisé. Alors ce monsieur a le droit de défendre sa génération, je prétends moi que la mienne a le droit de chercher tous les chemins pour sortir de cette ornière. J'en terminerai là-dessus pour effectivement parler de l'association Paris-Berlin-Moscou, dont je peux donner les coordonnées, Henri de Grossouvre. Donc, association Paris-Berlin-Moscou, son adresse c'est Treves, Treve2SE, 03230 Lusigny. Donc Treves, 03230 Lusigny. Vous pouvez donc écrire et adhérer à l'association. La cotisation de membre simple est de 30 euros. La cotisation de soutien de 150 euros. Et alors, le site internet, si vous voulez nous le présenter rapidement, en 30 secondes.
Oui, vous pouvez trouver des informations sur cette association sur le site www.paris-berlin-moscou.org. Je répète, www.paris-berlin-moscou.org. qui est un site consacré à tous les thèmes dont nous venons de parler, c'est-à-dire la coopération euro-russe, le noyau dur franco-allemand, les questions de défense européenne, les questions d'énergie, les questions stratégiques, voilà, et qui est une base ouverte qui attend les contributions des avisés et qui, surtout, cette association vient d'être créée. Et elle demande à avoir le plus d'adhérents possible.
Henri de Grossouvre, merci beaucoup pour cette association, également pour cette demi-heure. Nous avons ouvert de nombreuses perspectives, beaucoup, beaucoup de messages. Vous restez avec nous si vous le souhaitez pour la troisième demi-heure et nous partons donc sur notre programme culturel. Nous retrouvons toujours sur Radio Courtoisie ces chroniques de la vieille Europe avec Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Lien, rédacteur en chef de Relève Politique, Henri de Grossouvre, notre invité, votre serviteur Philippe Christel et le grand maître de cette dernière partie, Patrick PL, journaliste, qui a dû donc nous concocter un programme culturel, j'espère à la hauteur de nos débats passionnés de tout à l'heure.
Bon, culturel, bonsoir Philippe. Comme d'habitude, je vais vous poser une question, Philippe.
C'est toujours sur moi que ça tombe.
Toujours, vous êtes juste à côté de moi. Je vous propose un nouveau régime.
Oh, il y en a marre des régimes.
Pour l'été, c'est de manger du McDonald's matin, midi et soir, avec un minimum d'exercice physique. Est-ce que ça vous intéresse?
Non, pas trop. Je préfère le confit de canard.
Bon, alors, si vous voulez connaître le résultat, c'est simple. Il faut aller au cinéma. C'est sorti aujourd'hui. C'est un documentaire qui sort aujourd'hui sur nos écrans. Un film de Morgan Spurlock, Super Size Me, en français, Grossis-moi. Morgan Spurlock a décidé de manger matin, midi et soir du McDonald's pendant un mois sous surveillance médicale. Le résultat, il est incroyable. C'est 13 kilos en plus, le foie épuisé, cholestérol au plafond, état dépressif, impuissance sexuelle et hyperactivité. Et les médecins ont été clairs, le réalisateur était en danger de mort à mi-parcours. Alors le film a très bien marché aux États-Unis et si on veut combattre ce fléau, il est temps que l'État français prenne aussi des mesures pour qu'on ne se retrouve pas dans le même état que l'Amérique. Il faut savoir qu'en France, je vais vous donner quand même quelques chiffres alarmants, simplement pour les adolescents, 84% de gâteaux en plus en 5 ans, 17% de boissons sucrées, 80% de pizza et 24% de biscuits pour nos adolescents. En conclusion, on doit se battre. Si on ne veut pas ressembler à cette nouvelle Amérique vis-à-vis de la vieille Europe et que les pseudo-produits allégés et que le fast-food soient, qu'il y ait un véritable boycott. Normalement, l'État a décidé de prendre quelques mesures. Par exemple, on a décidé de supprimer les distributeurs de boissons dans les écoles. Il fallait savoir que dans toutes les écoles de France, il y avait des distributeurs de soda et de gâteaux qui viennent des grandes industries américaines. Il faudrait augmenter la TVA sur les fast-food qui sont moins taxés que les restaurants et interdire la publicité avec des enfants sur les produits d'alimentation. Malheureusement, Danone vient de signer un contrat avec Zidane, alors heureusement, sur une période de 10 ans, heureusement, la France a perdu au football et peut-être que Zidane ne sera plus le héros de notre jeunesse. Donc un seul mot d'ordre, un boycott total de McDonald's et je félicite une seule région de France, la Corse, qui n'y a aucun McDonald's sur son territoire.
Mais c'est en France, non ?
Oui.
C'est en France, en Europe en tout cas.
Rigole.
En tout cas, c'est en Europe.
On va encore avoir des mots,
on va encore avoir des messages désagréables.
Donc je vous rappelle le titre du film, Super Size Me, en français Grossis-moi, de Morgan Spurlock. Littérature, enfin littérature, ah, roman.
Enfin.
Enfin. Alors depuis quelques mois, je me suis aperçu qu'en allant au travail dans le métro, je prends la ligne 1, vous savez, la ligne qui va vers la Défense. Enfin, je suis pas là pour raconter ma vie.
Bah, c'est un petit peu, visiblement, au McDo de la Défense.
Non, mais c'est important. Vous avez souvent énormément de cadres. Et je me suis aperçu que ces jeunes cadres dynamiques, dans leurs superbes costumes à la mode, achetés dans le sentier en général, ne lisent plus la presse économique. Énorme surprise, ils lisent un énorme roman. Incroyable, nos futures élites ont-ils changé? Le capitalisme et la libre entreprise ne feraient plus recette et se seraient remplacés par la littérature et la culture. Donc j'ai enquêté, quel est ce roman qui passionne nos chers cadres? Alors le nom de ce roman, c'est Da Vinci Code, de Dan Brown. C'est un roman américain d'un professeur d'anglais et d'historien de l'art. Alors l'histoire est passionnante, vous allez voir. C'est Harlan Coben, un éminent spécialiste de symbologie de Harvard, est convoqué au Louvre pour examiner une série de pictogrammes en rapport avec l'œuvre de Vinci, Léonard, le cher peintre. En déchiffrant le code, il met au jour l'un des plus grands mystères de notre temps, et devient un homme traqué. En tout cas, tout y est dans ce roman. Vous avez le Graal, les manuscrits de la Mer Morte, Disney, les Templiers.
Le complot.
Les Templiers fondés par le célèbre roi Godefroy de Bouillon. Faut dire que le livre est rempli d'erreures historiques.
C'est approximatif.
C'est l'Uchronie.
L'ère du Verseau, Léonard de Vinci. Le plus drôle, c'est le prénom typiquement français de l'inspecteur de police, Bézu. Ça s'invente pas. Mais le pire dans ce roman pseudo-historico-ésotérique, c'est la nullité des énigmes.
Ah.
Prenons un exemple. Trois éminents experts.
Mais tout ça, là, c'est pour dire du mal des cadres, ça, non?
Ah non, oui, pas du tout.
Mais si, la chute, ça va être ça. Ouais,
je sens que ça va être ça. Ouais.
Les trentenaires qui vont travailler.
Je vous en visais. les énigmes sont passionnantes. Trois éminents experts mettent un chapitre entier dans le livre à découvrir qu'un texte qu'ils croient codé ou écrit dans une langue ancienne ou inconnue est en fait simplement à l'envers. C'est-à-dire, vous savez, ce texte,
c'est du Harry Potter.
C'est digne du manuel des Castors Junior. Voilà. Mais il y a de vraies révélations, parce que ce livre a des vraies révélations. Le Vatican, eh oui. Et plus précisément, l'Opus Dei se sont fixés pour but de taire certaines révélations dont la diffusion aurait pour effet de ruiner la foi qu'ils ont mis 2000 ans à ériger parmi les populations occidentales. On a vraiment peur. C'est vrai que l'Opus Dei, le Vatican, est une vraie menace sur l'Europe. Alors, après avoir lu, je peux vous confirmer que Da Vinci Code, qui est quand même un best-seller, ça, hein, est le livre le plus nul de l'année. Et pourtant, un vrai best-seller. Bref, nos jeunes cadres français vont en sortir encore plus idiots.
Voilà. Ouais, oui.
Vous voyez, voilà. Mais dans leur pavillon et autour d'un barbecue, ils pourront jouer au pseudo-historien en parlant du grand complot chrétien.
Ton problème, c'est que tu es cadrophobe.
Non, je le suis moi-même, alors.
Bon, Xavier Vandelier, vous avez des choses à nous raconter, vous?
Eh bien, écoutez, je dois avouer.
Qui ne nous mettra pas en difficulté avec 85% de notre auditoire?
Non, je pense que je vais faire une tentative pour nous réconcilier avec notre
auditoire. Oui, elle est bienvenue.
J'ai cherché désespérément un livre récent, une œuvre récente d'un auteur récent qui puisse faire l'objet d'une chronique, et je n'en ai pas trouvé parce que je voulais dire du bien, je ne voulais pas faire comme notre ami. Forcément, quand on parle des choses récentes, souvent on dit du mal. Ce soir, j'ai envie de dire du bien. J'ai choisi de vous parler d'un livre qui s'appelle « Première et dernière nouvelle » qui est signé d'Antoine Blondin. Antoine Blondin, étant très passé, il va de soi que ce sont des nouvelles qui n'avaient pas encore été publiées, du moins sous forme de livres. Il y a des nouvelles inédites, il y en a qui étaient parues dans la presse et qui ont été rassemblées donc par les éditions de la Table Ronde. Il faut souligner que les éditions de la Table Ronde sont plutôt en forme en ce moment d'ailleurs, puisqu'elles ont décidé de sortir à nouveau la revue de la Table Ronde, qui s'appelle précisément les Cahiers de la Table Ronde, avec un certain nombre de contributions intéressantes, comme celle de Jean-Christophe Buisson, qui interviewe le cinéaste canadien Denis Arcand, qui nous dit tout, non pas tout le mal, mais toute la compassion qu'il peut avoir pour la génération 68arde un petit peu finissante et décatie. Mais j'en reviens au livre d'Antoine Blondin, également publié aux éditions de la Table Ronde, s'appelle « Première et dernière nouvelle ». C'est un petit condensé d'esprit français. en une dizaine de nouvelles et qu'il faut se procurer, qu'il faut lire au fil de l'été pour se souvenir ô combien il est plaisant d'appartenir à cette grande culture française
oui.
qui est la nôtre.
Oui, et puis cet hommage à Blondin quelques jours avant le départ du Tour de France, je pense que le clin d'œil aura été perçu par tous. Alors juste, je interromps là puisque un scoop vient de nous tomber dessus à Radio Courtoisie, un message d'une auditrice. Le sentier n'existe plus, on n'y trouve plus que des Chinois ou des Pakistanais. Voilà. Donc c'est pas là où
c'est
les gens vont aller.
La géopolitique parisienne.
Leur costume. Alors, bah écoutez, moi je voulais faire état d'un...
Rapidement,
je ne sais pas si c'est les cadres qui lisent ça, mais c'est le nouveau numéro 13 de la bande dessinée de Largo Winch qui s'appelle Le Prix de l'Argent. Vous savez que Largo Winch, c'est ce milliardaire en blue jean, sans famille ni attache, contestataire, coureur, vagabond, iconoclaste et bagarreur.
Un vrai américain.
Il se retrouve à 26 ans à la tête d'un empire de 10 milliards de dollars. Et je vous signale que c'est un Serbe, Largo Winch. Vinslav de son nom. Voilà, donc c'est le numéro 13 de la série aux éditions Dupuis qui font d'excellentes bandes dessinées. Et donc moi je l'ai pas eu dans le métro, mais j'ai trouvé ça bien quand même. Patrick.
Alors, toujours littérature, le prochain Michel Houellebecq, il va sortir en 2005. Mais cette fois-ci, Michel Houellebecq vient de changer d'éditeur et il signe un contrat chez Fayard. Alors cette fois-ci, l'originalité du contrat, c'est qu'il a signé pour un livre et aussi son adaptation au cinéma, qu'il réalisera lui-même. Donc nous suivrons de près pour voir si Michel Houellebecq est aussi bon réalisateur qu'écrivain. En tout cas, aucune information sur le sujet et le montant du contrat. Mais en tout cas, c'est à suivre pour 2005.
Grégoire Gambier.
Oui, alors moi, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, ou en fait, c'est que j'ai la flemme, je lis plus du tout. Donc je me contente de lire les pages débat et opinion du Figaro pour faire le beau le soir, quand je suis un des rares fois où je suis invité dans des dîners mondains. Oui, non, c'est ça. Et donc débat et opinion, donc la série Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, donc du Figaro, ce qui nous a permis de lire une excellente et revigorante, quoique pessimiste, mais c'est d'un pessimisme actif. Donc une tribune de Jean Raspail à ce sujet. Donc ce n'est pas du tout mon propos. Moi j'ai lu hier celle, enfin en plus, celle de Denis Tillinac, Mon patriotisme et syncrétique. Alors le sujet, le titre pouvait être éminemment sympathique, notamment pour nous qui voyons dans le patriotisme syncrétique, nous y attachons une certaine valeur. Donc Denis Tillinac, pour nos auditeurs, c'est cet intellectuel post-chiracien et néo-sarkozyste, en fait, qui vient de se découvrir un amour immodéré pour le président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est d'une... là, du coup, nous sommes effondrés à la lecture de ce type de choses. Je vous rappelle que c'est comment définissez-vous l'identité française. Alors, ça tourne autour de la francophonie et toutes ces choses-là. Bon, pourquoi pas. Et donc, je vous juste un petit extrait. Alors, Denis Tillinac. Hein. Je suis français. C'est une part essentielle de mon identité. Pas la seule. Ma conscience tâche d'être planétaire. Ma sensibilité est foncièrement judéo-chrétienne. Ma culture occidentale. Mes goûts et mes couleurs me tirent vers la latinité, aucun penchant régionaliste. Le socio-cul de terroir me rase et les modernes duchés consécutifs à la régionalisation offusquent en moi un jacobinisme incurable. Alors, on dirait que c'est pour ça que ça m'a heurté, mais pas uniquement, parce que ça me rappelle malgré tout l'idéologie française décriée par BHL, à peu près dans les mêmes termes d'ailleurs, et surtout l'édito de Benamou dans Globe à la grande époque de la génération Mitterrand, pour qui tout ce qui était franchouillard, Franchouillard lui était odieux. Alors simplement, voilà, ça c'est Denis Tillinac, c'est un intellectuel de droite, hein, considéré comme de droite, ou attention en plus Sarkozy, c'est comme vraiment de droite.
C'est le mentor de Chirac. Hein, donc,
il s'est rapproché de Sarkozy.
Alors, juste pour la table ronde. Hein,
pour... Mais oui, on en parlait.
Oui, mais justement, moi je voudrais intervenir, il faut savoir décrypter.
Je n'ai pas fini, c'est terrible.
C'est pas grave, vous rebondirez.
C'est le principe de l'intervention. C'est que généralement, on ne s'y attend pas.
Je crois apporter un élément, c'est que Denis Tillinac fait amende honorable dans ce passage. Denis Tillinac était moqué dans le milieu des éditeurs parisiens pour être un bouseux de la Creuse qui s'était essayé de la Corrèze, c'est vrai, qui s'était essayé à des romans régionalistes enracinés et que ça lui a collé à la peau longtemps. Donc là, je pense qu'il, quand il a reçu cette question, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, il a dû avoir très peur. La table ronde reprend un petit peu d'ampleur. Il voulait être bien vu de ses pairs. Cet article ne s'adressait pas au Figaro, il s'adressait à ses pairs des milieux parisiens. C'est tout.
Non, alors juste pour finir sur Denis Tillinac, donc c'est bien lui qui dit « Mon patriotisme se sent fort bien dans une peau multicolore » et je rappelle pour nos auditeurs qu'il vient d'éditer « Le Dieu de nos pères, défense du catholicisme », CQFD.
Patrick.
Je vais continuer par du sport. Je vous rassure, je ne vais pas parler de football, mais de rugby. Avec l'initiative du club de rugby de Perpignan. Donc ça rentre dans la culture, je considère. L'USAP, qui ouvrira prochainement son capital au FC Barcelone au nom de leur identité catalane commune et financera un projet de développement reposant sur un recrutement ethnique de ses joueurs. Eh bien, cela, ça a fait scandale. Pourquoi ? Parce que cette association intersportive de la part et d'autres des Pyrénées reposerait sur l'identité régionale commune que partageraient les deux clubs. Ainsi, le FC Barcelone n'est pas désigné par ses futurs associés Perpignanais, excusez-moi, comme un club espagnol, mais comme une équipe de Catalogne du Sud. Donc d'après la presse, le président du Barça, Joan Laporta, est d'ailleurs connu à Barcelone pour ses ambitions politiques et son discours ultranationaliste. Le club perpignanais a d'ores et déjà arrêté le principe d'un recrutement minimal de 30% de jeunes catalans dans ses équipes, et toujours selon son président, il considère qu'il n'est pas utopique de penser que 50% de catalans dans l'équipe seront dans l'équipe dans quelques années. Quel scandale ! Donc je me pose la question, en quoi cela est scandaleux de vouloir faire une équipe régionale au sein de l'Europe et d'avoir 50% de Catalans dans l'équipe, donnant une vraie chance sur le plan sportif au sein d'une formation aux jeunes et un vrai partenariat européen, ce qui change largement du système négrier de certains clubs de football allant chercher dans les pays du tiers-monde les futures vedettes du foot français. Cela coûte beaucoup moins cher que de former les jeunes de la région. Et pourtant, on va encore gueuler sur les Catalans en disant que c'est des ultranationalistes.
Oui, bah à ce propos, puisque vous êtes dans le football, je vous félicite, parce que vous êtes un grand sportif devant l'éternel, pour saluer la défaite de l'équipe de France de football, et espérer, pourquoi pas, puisque nous y sommes...
L'éco-allemande gagne.
L'éco-allemande, oui, ou je crois que c'est le Portugal qui joue ce soir, pourquoi pas, c'est un pays encore qui se tient debout.
C'est Portugal-Hollande ce soir, et demain c'est Grèce-Tchéquie. Et dimanche soir sera la finale.
Ce soir c'est clair, demain soir le choix est plus délicat.
Non mais maintenant que la France a été éliminée, on s'en fiche, n'importe qui peut gagner, c'est parfait. Hein.
Oui, on peut dire du blond hein, du coup.
Non, il faudra que la Hollande soit encore éliminée, et je pense qu'on aura des vraies équipes.
De toute façon, on aura la Tchéquie en finale.
On l'espère.
Allez, faites des pronostics.
On se trompe à chaque fois.
Puisque vous en avez parlé.
Il sera noté, Victoria, que votre intervention a consisté à nous demander des pronostics pour le football. Et je doute que Serge de Becquet sache que vous êtes comme ça quand il est parti, que vous nous poussez à ce sport de masse totalement médiatisé.
C'est vous qui en avez parlé. Bon.
Je suis pas sûr. Bien, avant donc de... Nous allons justement laisser la parole à Victoria, qui a eu la gentillesse et la patience de rester avec nous pour les quelques annonces prévu dans l'émission de Serge de Becquet tout à l'heure. Quant à nous, nous refermons cette émission, ce volet des chroniques de la vieille Europe. Grégoire Gambier, Xavier Van Lierde et Patrick Péel, merci d'avoir été avec nous. Henri de Grossouvre, merci d'être resté. Vous regardez le football, Henri de Grossouvre ?
Plus depuis quelques années.
D'accord. C'est votre télé qui a lâché ou c'est votre fibre nationale dans
j'ai
le...
J'ai pas de télévision.
Très bien, c'est une bonne initiative. Bien, donc ces chroniques de la vieille Europe s'achèvent. Nous nous réentendrons ou réécouterons pour notre dernière émission avant la trêve estivale qui sera le 14 juillet au soir.
Date très bien.
À retenir.
Bravo.
Très bien, merci à vous tous et avant de conclure, la parole est donc à Victoria pour les annonces traditionnelles. Merci à tous et au revoir.
Un indicatif, non. À propos de l'indicatif de l'émission de Serge de Becquetch, un auditeur nous donne les précisions suivantes. Il s'agit du champ de marche du 42e régiment de tirailleurs sibériens fondé en 1711. Cette mélodie a été effectivement recyclée pour toutes sortes de partisans. Vous et moi, nous préférons bien sûr les versions blanches. Votre interlude était le chant des partisans rouges de l'amour, le fleuve sibérien, frontière avec la Chine. Et le disque que vous avez entendu était un disque Wagram numéro 320. Alors, deux annonces. Le 42e anniversaire du sacrifice du lieutenant Roger de Guèdre, exécuté au fort d'Ivry le 6 juillet 1962, et du sergent Albert Dovcar et de Claude Pietz, exécuté le 7 juin 1962 au Trou d'Enfer, sera marqué le samedi 3 juillet prochain à Versailles par les cérémonies suivantes. À 10h, messe en l'église Notre-Dame des Armées, 1, impasse des gendarmes, à 11h, au cimetière des Gonards, prière et dépôt de gerbes sur la tombe du lieutenant de Gueldre. Samedi prochain encore, 3 juillet, de 15h à 18h30, Jean-Pascal Cerbera dédicacera attentat à la SNPE et le temps des loups. À la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, métro Saint-Michel. Et enfin, le camp mixte Juventas Christi à Coulondre, chez l'abbé Schaeffer de Saint-Nicolas du Chardonnay, pour la réfection de la chapelle, aura lieu du 2 au 16 août prochain. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Au 06 62 65 78 03, je répète 06 62 65 78 03, ou sur le site www.jeunecateau.fr.st. Les inscriptions sont de 95€ pour 15 jours. Éventuellement, les dons sont à adresser à Juventas Christi, 26 rue Georges Clémenceau, 77 220 à Tournon-en-Brie. Et puis éventuellement, pour prendre date, le 20e pèlerinage Saint-Louis à Rocamadour, thème Saint-François de Sales, apôtre de la mission, le samedi 21 août 2004. C'est un pèlerinage organisé par l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre. Alors, pour tout renseignement, Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, Maison Notre-Dame, La Garrigue Haute, 46 600 Baladou. Et le téléphone, c'est 05 65 37 30 51. Voilà, chers auditeurs, bonsoir, à la semaine prochaine, et en attendant, que Dieu nous garde. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 juin de 18 à 21h, en différé jeudi 1er juillet, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40€. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20€ ou 15€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Votre gloire est immortelle, volontaire, c'est l'office et blanc, et votre agonie suprême, la honte de l'Occident. Et votre agonie suprême, la honte de l'Occident.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée de la nuit sur Radio Courtoisie. Dans un instant, à 21h, les soirées musicales.